commencer les attacher à notre deuxième cours sur le Perek Zayin, page 192. 192, donc septième chapitre de Igeret Hatshuva.
C'est quoi aussi le chapitre numéro 7
C'est sûr, ouais. Il y a une structure. On l'a expliqué la semaine dernière. On a expliqué que dans la structure du Admor HaZaken, dans la Igeret Hatshuva, dans les six premiers chapitres, l'Admor HaZaken s'est plus arrêté sur l'essence de la Teshuvah. Qu'est-ce que c'est la Teshuvah? Ça, on a expliqué dans les quatre premiers chapitres. Classico. Bingo.
On a augmenté la moyenne d'âge.
Bon, ça, on va dire que David aussi, il est jeune, ça va.
Il est jeune.
Donc, dans les quatre premiers chapitres, on a expliqué qu'est-ce que c'est la Teshuvah. Que la Teshuvah, on a expliqué que ça veut dire décider de changer profondément et décider de ne plus manquer de respect à Kadosh Baruch Hu, et comment, en plus de la Teshuvah, à l'époque, on devait offrir un sacrifice qui a été remplacé par la suite par le jeûne, qui a été remplacé par la suite, qui est remplacé aujourd'hui par là. C'est d'accord. Ça, ce qu'on a expliqué dans les quatre premiers chapitres. Et après, on est rentré plus profondément dans le sens de la Teshuvah. Donc, pour expliquer la Teshuvah, on a d'abord ouvert le capot, on a expliqué qu'est-ce que c'est un juif. On a expliqué comment un juif est conçu différemment d'un non-juif. On a expliqué la gravité lorsqu'on fait une avéra. Et l'impact quand on fait une mitzvah. On a expliqué également, il y a 2 semaines, que lorsqu'un juif fait une avéra, il est en train de prendre de l'énergie et de la transmettre, on a expliqué, aux forces du mal. Vous vous rappelez? Donc du coup, c'est pour ça que lorsqu'on fait une avéra, les gens qui font des avérotes réussissent dans la vie. Pourquoi ils réussissent dans la vie? Parce que le Yetzer Hara va faire tout son possible pour continuer à les gâter, parce qu'il dit celui-là, c'est un actionnaire principal, un actionnaire majoritaire. Donc avec ça, on a compris l'enjeu de la Teshuvah. Comment? Le Yetzer Hara, il fera tout pour empêcher qu'une personne fasse Teshuvah, puisque c'est comme si on lui enlève son actionnaire majoritaire. Et comment? Et c'est très important qu'on fasse Teshuvah, puisque c'est pas simplement comme un non-juif. Là, chez un juif, le fait qu'il fasse Teshuvah ou pas, il y a un enjeu sur les forces du mal dans le monde entier. Ça, c'est ce qu'on a expliqué jusqu'au chapitre 6. Bon, encore une fois, sur le papier, ça a l'air simple, ça a l'air facile. Maintenant, à partir du Perek Zayin, on va commencer à nous donner des techniques pour y arriver de manière concrète. Parce que bien sûr, sur le papier, ça a l'air facile. Oui, je décide de plus recommencer. Oui, c'est très grave ce que j'ai fait. Oui, etc., etc. Oui, un juif, il est différent. Oui, si je fais des averroches, je suis en train de nourrir les forces du mal. D'accord, pas de problème. Mais dans la vie de tous les jours, lorsque le Yetzer Hara vient, il propose une avéra. Je lui raconte ça, ça lui parle pas, le Yetzer Hara. Il me dit, écoute, sois tranquille avec tes histoires. Et ça verra, après on verra. Alors, comment tu lui parles, ton Yetzer Hara? Je lui dis, c'est une question. Oui. Si tout le Ham Israël arrêtait instantanément de faire des averroches, quand les forces du mal n'existeraient plus. C'est sûr? Ils ont été créés par Dieu, mais c'est nous qui les alimentons. C'est très grave. C'est-à-dire qu'ils ont l'ordre de nous faire chuter. Ah, là, la moyenne d'âge a augmenté.
Le héros, il vient
de se dire. Il est jeune.
Ça perd plutôt
quoi. Il y a par exemple, le fait qu'un livre mal tombé sur Amazon a une famille.
C'est écrit comme ça. Le rabbi précédent, il disait la chose suivante, il répétait très souvent, le rabbi précédent, il disait la chose suivante, il dit que des mots de Tefila et de Tehilim qu'on prononce mal, de tous les mots qu'on dit, sont créés des malachim. Quand on prononce mal un mot, un Tefila ou un Tehilim, ben on crée aussi un malach. Donc c'est un malach tordu, avec des défauts. Lorsqu'on va arriver au ciel, on verra des malachim qui vont nous accueillir avec tous leurs membres, on verra d'autres malachim qui vont nous accueillir, avec sans bras, sans pieds,
même
sans...
D'accord. Même si on fait exprès.
D'accord. Pas exprès, ça change pas. Il a fait un accident sans faire exprès. Et le mort est mort. Hein.
Si, on tourne avec ça.
D'accord. Non, ça veut dire que faire attention, faire son possible, il faut... Encore une fois, on parle pas d'une personne ici qui ne sait pas encore faire la tchila. Pas une personne qui a bâclé cette tchila. Qui a pas lu les mots comme il fallait, voilà ce qui se passe. C'est très important. Donc comme j'ai expliqué, j'ai dit, tout ça sur le papier, c'est très facile. D'accord? Tout ça sur le papier, c'est très facile. D'accord? Non, la question se pose. Comment on accomplit ça concrètement? Le Yetzer Hara, il vient, il te propose une avéra. Je lui dis quoi? Je commence à lui dire, oui, tu sais, c'est pas bien, le juif, il a été conçu différemment, insufflé, et si tu vas faire une avéra, tu vas donner de la force au mal, etc. Bon, c'est intéressant tout ça dans un cours. Mais quand le Yetzer Hara, il est en train de te proposer l'avéra, c'est pas concret ça. Ouais. Donc c'est là qu'à partir de Perek Zayin, Admor HaZaken, il va commencer à nous parler. On va commencer à rentrer dans des techniques de combat. Alors ce qui est intéressant, c'est que la Gemara Zaken va nous parler comme des tzadikim. Ça, c'est une technique aussi, vous savez, c'est une technique quand on enseigne, de faire comme si qu'on a en face de soi une personne qui a déjà tout compris. C'est bien cette technique. C'est une technique qui est utilisée un peu partout. Que quand vous voulez propulser quelqu'un, vous voulez surélever quelqu'un à un niveau beaucoup plus haut que ce qu'il est capable, vous lui parlez, vous faites comme si qu'il est déjà à votre niveau, qu'il comprend déjà ce que vous racontez. Alors au début, il va planer un petit peu, mais après, il va suivre. C'est exactement ce qu'on va faire ici là de Morazaken, dans le Père Exaïn. Il va nous parler un petit peu comme des tzadikim, vous allez voir. Il va nous parler un peu comme des tzadikim. On va planer un petit peu, d'accord? Mais après, une fois que ça va prendre, vous allez voir que là, on va commencer à développer des techniques concrètes.
D'accord?
Bien sûr. Alors, je suis là de Morazaken. Donc.
Tu es là de Morazaken?
Non, j'ai dit je suis là de Morazaken.
Ce qu'on a entendu.
Tu veux là de Morazaken?
Non, c'est ce que tu as dit. C'est ce qu'il a dit. Je suis là
de Morazaken.
C'est ce qu'il a dit.
Suivre. Pour l'instant, j'ai pris du coca.
Mais quelque part, tu dois penser que c'est un peu un mot.
Servez-vous les beignets.
Tu dois penser ça.
C'est écrit qu'au moment où on répète un enseignement d'un tzadik,
c'était sûr.
À ce moment-là, on a la réincarnation du tzadik qui vient en nous, d'accord,
ça,
et qui l'étincelle qui nous anime à ce moment-là est l'étincelle du tzadik.
Toi, ça t'arrive souvent, on a remarqué.
Non,
il y a
un coach. Si...
Bon, mais il y en a des fois qui sont shootés aussi, hein, faut pas
rester... C'est ça le problème de Tania, là, cette fameuse clip, c'est ça. C'est pour ça que vous
êtes... D'accord. Alors, on est Perek Zayin. Perek Zayin, on a commencé la semaine dernière. Donc, encore une fois, on va essayer de développer des techniques concrètes. Alors, la semaine dernière, puisque c'était à la mode de parler du foot, quoi on a parlé, on a amené l'exemple, vous rappelez l'exemple du terrain. On a dit l'entraîneur, avant d'amener son équipe sur le terrain, avant le match, il va entraîner son équipe. Il ne va pas entraîner son équipe seulement à travailler en équipe. Il va également les entraîner par rapport aux tactiques qu'on connaît de l'autre équipe. On est d'accord? C'est comme ça que ça marche? Bah oui. D'accord, l'entraîneur, Vareille, c'est quoi, c'est un entraîneur? Bon. Il connaît son équipe, et un bon entraîneur, il connaît également l'équipe de l'autre côté. Sinon, ça sert à rien, sinon il y a 5-0. D'accord? Sinon, on perd son temps. Donc c'est pas comme ça que ça marche. Il faut bien s'entraîner et bien connaître l'équipe qu'il y a de l'autre côté. C'est comme ça que ça marche. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a un joueur qui n'arrête pas de jouer perso? Dès qu'il a la balle, il commence à faire son malin, à vouloir faire la moitié du terrain. Il fait la moitié du terrain, on lui prend la balle, on se met un 5 sur lui, on prend la balle et c'est fini. Bon, à quoi ça sert? Il a fait le malin, bon, à quoi ça sert? Un joueur comme ça, normalement, qu'est-ce qu'on fait? On le met dehors. On le remplace à la mi-temps, c'est ça? C'est comme ça, à la mi-temps, au quart de... Comment ça marche? On peut l'arrêter quand on veut?
Ouais.
Enfin, on peut arrêter...
On peut le remplacer quand on veut.
Quand on veut. On arrête le match, on le remplace.
Donc il n'y en a pas trois.
Il fallait attendre.
Même
dépend, pas de respect, quoi.
Ça dépend.
D'accord.
C'est bon.
Il y a trois remplaçants.
Alors, le problème...
Remplaçants,
très bien. Alors, ce qu'on a expliqué la semaine dernière, c'est que le problème qu'on a chez nous, c'est que, donc bien sûr, le terrain, c'est les forces... Donc il y a les forces du bien et les forces du mal. D'accord. Et on a expliqué dans le Perek Vav qu'une personne, lorsqu'il fait une avéra, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de prendre la balle et de l'amener au camp adverse. Et marquer des buts. Ah bah oui. Il marque des buts. Il fait des bêtises. Alors, tu essayes de lui donner. Tu lui donnes un carton jaune, après c'est carton rouge. Je sais comment ça marche, quoi, les étapes. D'accord? Carton jaune, carton rouge, etc. Mais le problème qu'il y a, c'est que chez nous, on peut faire sortir personne du match. Ça veut dire que même si c'est un mauvais joueur, il restera toujours là. Il sera toujours là en train de tempester. Même si t'as 20-0, il sera toujours là. Et ça, c'est un vrai problème.
Jusqu'à la mort.
D'accord? Jusqu'à qu'il meure, ouais. Tant qu'il sera là, après il y aura ses enfants, ses petits-enfants, ils seront là, ils vont te casser les pieds. Jusqu'à que c'est toi qui meurs. Alors comment on fait? C'est pour ça qu'on a expliqué la semaine dernière. On a expliqué qu'il y a deux techniques très très importantes à développer lorsqu'on fait teshuva. Emet et Yasha. Emet, Yasha, ça veut dire quoi? Morazaken a dit un premier point, il a dit un grand problème qu'il y a lorsque les gens font teshuva, c'est qu'ils font ce qu'on appelle une teshuva intéressée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se mettre dans la tête de ce joueur. D'accord ? Ce joueur, lorsqu'il a la balle dans ses pieds, il va se mettre à jouer perso. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là ? Il sait très bien ce que l'entraîneur il lui a dit, qu'il faut travailler avec une technique d'équipe. Qui dit technique d'équipe, ça veut dire que dès que tu as la balle, ne pense pas à aller le plus loin possible. Pense à qui je dois la donner pour que la balle obtienne le meilleur but possible. On lui a bien dit, mais pourquoi il ne le fait pas ? Il le fait pas parce qu'à ce moment-là, au moment où il a la balle au moment où il est en train de dribbler avec la balle, il ne pense plus à l'équipe. Il ne pense plus au fait que l'équipe doit gagner. Il pense à lui. Il dit, ah, tu imagines si je réussis à faire tout terrain, etc. Les gens vont m'applaudir en disant, ah, le meilleur joueur. Il pense à lui. Mais bien sûr, ça ne marchera pas. Mais il pense quand même à lui. Expliquez à l'Admorah Zaken, dans un premier point, qu'un grand problème qu'il y a lorsqu'on fait Teshuva, c'est que très souvent on fait Teshuva de manière égoïste. C'est ce qu'on a expliqué la semaine dernière. De manière égoïste, ça veut dire que je ne fais pas Teshuva parce que ça me dérange, que Akadosh, comment j'ai pu faire descendre mon Neshama tellement bas. Non, c'est pas ça. Je fais Teshuva parce que je me dis, écoute, il faut bien se remettre, je suis descendu très grave, etc. C'est comme le joueur qui se dit, bon, attends, ça va, j'ai exagéré. Mais j'ai exagéré, c'est toujours le jeu, j'ai. Le grand problème qu'il y a, c'est quoi? C'est que, puisque la raison pour laquelle je fais Teshuva, c'est à cause du moi, à cause du jeu, donc qu'est-ce qui va se passer? Le jour où mon envie est plus forte, mon envie d'avancer avec la balle, est plus forte que l'envie que j'ai au fond de moi de faire plaisir à l'équipe et de faire gagner l'équipe, eh ben je m'écoute à moi et j'écoute plus personne. C'est exactement la même chose avec la Teshuva. Tant que tout va bien, c'est Rosh Hashanah qui pour, je suis dans l'ambiance, et que j'ai envie de faire Teshuva, c'est à la mode de faire Teshuva, je fais Teshuva. Mais dès que c'est plus à la mode de faire Teshuva, et que j'ai plus envie de faire une Avera que de faire une Mitzvah, eh ben je vais faire une Avera. Ça explique énormément de choses. Ça explique comment ça se fait que le matin, on peut se lever, on fait une fila extraordinaire, l'après-midi, je fais une Avera. Si, attends-moi, s'il y a un problème, là. Comment c'est possible? Est-ce que ça veut dire que le matin, c'est faux ce que j'ai fait? On te dit non. Pas forcément que le matin, ce que j'ai fait, c'était faux. Pas forcément que je suis un mauvais joueur. C'est un très bon joueur. Quand il veut, super joueur. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi là, il a fait des bêtises? Parce qu'encore une fois, parce que dans sa tête, c'est moi. C'est mon honneur, c'est qu'est-ce que j'ai envie. Alors, le matin, il s'est réveillé, puis il a dit, bon, aujourd'hui, je travaille en équipe. Et après, ça lui a tourné la tête, il dit, bon, ben maintenant, je vais travailler seul, j'ai envie d'augmenter ma gloire. Pas la gloire de l'équipe, ma gloire. C'est ce qui se passe. C'est la même chose quand on fait Teshuva. A expliquer l'Admorah Zaken, le premier point, un juif doit se rappeler constamment d'où vient sa Neshama. Donc, essayez de généraliser les choses. Pas de penser qu'à moi. Moi, je dois faire Teshuva, moi, c'est pas bien ce que j'ai fait. Non. Premier point expliqué à l'Admorah Zaken la semaine dernière, il a dit, il faut se rappeler que ma Neshama vient d'un niveau le plus haut possible. Vous vous rappelez l'image qu'il a donnée? Du haut de la montagne, au fin fond du puits. Que déjà, tomber du haut de la montagne sur le sol, c'est déjà beaucoup. Tomber du sol au fond du puits, c'est encore beaucoup. Imaginez-vous celui qui tombe du haut de la montagne au fond du puits. C'est une image pour nous expliquer ce que la Neshama a enduré. Que la Neshama, le fait même qu'elle se trouve sur le terrain, c'est déjà une souffrance énorme. Et nous, on a la chutzpa, qu'est-ce qu'on fait avec cette Neshama qui est déjà en train de souffrir? Le fait même qu'elle est déjà sur le terrain, c'est une souffrance. Elle ne veut pas être là. Qu'est-ce qu'on fait avec cette Neshama? On la prend, et contre son gré, on va la tirer vers les forces du mal. Il a expliqué à cette manière que ça se passait principalement à cause des mauvaises pensées. Et que ça, c'est quelque chose qui n'a pas une journée qui passe sans qu'on n'ait pas concerné. Les mauvaises pensées. Une pensée déplacée. Il y a plusieurs lettres du Rabbi, dans lesquelles le Rabbi, il explique que les mauvaises pensées viennent en général lorsqu'on a la tête vide. Lorsqu'on a la tête pleine, on est occupé. Peu importe avec quoi, on est occupé. Il n'y a pas de mauvaises pensées qui viennent. On n'a pas le temps d'avoir de mauvaises pensées. À quel moment viennent les mauvaises pensées? Lorsqu'on a la tête vide. Lorsqu'on n'a rien à faire.
L'oisiveté est mère de tous les vices.
L'oisiveté
est mère de tous les vices.
De tous les vices, exactement. C'est ça. C'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, les gens, ils partaient très tôt le matin pour travailler. Ils rentraient le soir. Ils avaient un travail physique en général. Ils étaient crevés. D'accord? Ils dormaient, ils n'avaient pas le temps ni de s'accrocher avec leur femme, ni de rien du tout. Ils allaient, ils rentraient,
comment,
ils dormaient.
Comment ils ont pu tomber en Égypte autant d'impuretés, s'ils étaient aussi accablés que ça avec la...
Ah ben non, en Égypte, ils avaient des congés payés aussi.
Ils étaient accablés.
Ah non, non, non.
Comment?
Ils étaient accablés psychologiquement.
Oui. Non, pas si seulement psychologiquement.
Non, 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 non. Ils avaient leur jour de Shabbat, ils avaient leurs vacances et tout, bien sûr.
Ah bon?
Bien sûr. Ils étaient accablés principalement psychologiquement. Par exemple, aux hommes, on donnait des travaux de femmes, aux femmes, on donnait... C'était psychologique. Il y a eu plusieurs techniques psychologiques pour les affaiblir.
Et la pierre et la paille.
Les papayes. Oui. Par exemple, leur faire construire des choses qu'on leur montrait devant. Tu fais construire quelqu'un quelque chose et tu lui montres que tu vas le détruire juste après.
Ils n'étaient pas oisifs, ils étaient esclaves.
D'accord. Ils étaient esclaves, voilà. Mais c'est esclaves de manière dégradante. Parce que quelqu'un, même s'il est esclave, quand il aime construire quelque chose, tu viens, tu dis, ouais, tu vois, t'as construit, je le casse. C'est-à-dire que je l'ai fait juste parce que je voulais me faire un kiff. C'est horrible, ça tue quelqu'un, ça. Pardon. Servez-vous les beignets. D'accord. J'ai pas mis dans des assiettes, mais bon. On n'est pas des femmes, on n'a pas besoin de la présentation dans des assiettes. Oh, c'est bon.
On a eu de bonnes nouvelles.
Ah, bon, c'est pas un repas.
Non, je parlais de bonnes nouvelles, c'était l'année des naissances, moi.
Oui, oui, bien sûr.
Bon, c'est aujourd'hui, là.
J'ai lu hier le miracle de Hanouka, j'ai raconté ce matin le miracle de Hanouka. C'est que si on prend une mèche, on la rentre dans un beignet, elle brûle pendant 8 jours.
Pas cela.
Cela
cela, non.
C'est bon, il y a de l'huile.
J'étais un peu tunisien dans la blague.
On est sur la mère tunisienne. Elle arrive le soir à la maison. Elle prend une marmite, elle met 10 bulles dans sa tête. En fait, la marmite, elle fait bouillir. Puis quand l'huile, elle bout bien, elle fait « Bon, maintenant, qu'est-ce que je fais à manger ?»
D'accord, donc ça c'est le premier point qu'a expliqué l'Admor HaZaken. Premier point qu'a expliqué l'Admor HaZaken, c'est de réaliser à ce joueur qui est sur le terrain, là, qui croit qu'il est en train de faire son petit malin, lui dit attends, d'abord tu vas réfléchir d'où on vient, d'où vient la balle, d'où tu viens, d'accord ? Essayer de quitter le terrain. Et ça, encore une fois, c'est une technique que l'Admor HaZaken utilise très souvent. Que des fois, quand on reste dans son petit cocon et qu'on a sa petite vie, ses petites habitudes, etc., on a du mal à comprendre l'enjeu de nos misotes et de nos avérantes. Là, ce que l'Admor HaZaken va nous encourager, c'est pour ça que je lis un peu une méthode de Tzadikim, c'est de quitter notre cocon. Essaye de dire, écoute, arrête de réfléchir qu'à toi et ta petite équipe et ton petit truc. Essaye de voir plus grand. Plus grand. D'où tu viens ? D'où vient ton équipe ? Qu'est-ce qu'elle vient ? C'est quoi son histoire ? Pourquoi tu dois gagner ? Essaye d'agrandir l'horizon. D'élargir l'horizon. C'est ce qu'a expliqué l'Admor HaZaken. Donc ça, c'est le premier point. La première technique qu'a expliqué l'Admor HaZaken. Se rappeler d'où vient la Neshama. Que déjà, le fait même que la Neshama est sur le terrain, c'est déjà une souffrance énorme. En plus, cette Neshama, on vient avec des mauvaises pensées. On avait expliqué la semaine dernière que les mauvaises pensées, c'est quelque chose qui prend à Kadosh Baruch Hu. C'est comme si qu'on est en train d'enchaîner à Kadosh Baruch Hu. C'est comme si qu'on prend à Kadosh Baruch Hu, on est en train de l'enchaîner dans les forces du mal. Vous imaginez, c'est la gravité que c'est? Alors encore une fois, ça, quand on réfléchit perso, on fait pas attention à tout ça. L'Admor HaZaken a dit que ça, c'est pas un point qu'il faut réfléchir tous les jours et toute la journée. C'est un point qui est des moments particuliers dans lesquels il faut réfléchir à ça. Par exemple, le soir avant de faire le Kriyat Shema, ou bien avant ou pendant cette fille-là. C'est un moment propice pour réfléchir à cette notion-là. Pour réfléchir à ça. D'accord ? Pendant, c'est on fait des pauses pendant la tefila. Des pauses pendant la tefila, tu t'arrêtes, même 30 secondes, même une minute, tu t'arrêtes, tu réfléchis. C'est un moment propice pour ça. Parce que c'est pendant la journée, c'est pas forcément. Il faut un moment propice pour ça, il faut un moment adapté pour ça. D'accord ?
Déjà comme ça, on n'arrive pas à lire, suivre le chat. Si on doit marquer des ponts en plus, on va courir toute la tefila.
D'accord ?
On commence à 8h.
Ah, c'est ouvert ? Moins 4,
non, je parle pas du matin spécialement.
Ah. D'accord, donc ça c'est la première technique que donne l'Admor HaZaken. La première technique que donne l'Admor HaZaken, c'est réfléchir comment Kadosh Baruch Hu est tellement grand, comment l'enjeu est tellement grand, et comment moi, pour des bêtises, je suis en train de, excusez-moi du terme, de tout flinguer. C'est ça. C'est réaliser comment moi, pour une petite bêtise, pour un petit kiff, je suis en train de tout casser. Ça, c'est une première technique. On y reviendra, Bezrat Hashem. On va passer à la deuxième technique. Ve'abet. Ve'abet, donc c'est la page Tzadik Zayin. Donc juste la page 193, Vehabet, Levatesh ou Leatnia Klipa Vistracha. Donc on a dit deux techniques. Première technique, c'est prendre conscience de l'enjeu. Et d'ailleurs, quand on réfléchit, c'est Beshgara Pratit, j'ai étudié cette semaine une lettre du rabbi dans laquelle le rabbi s'adresse à des rabbanim, donc à des rabbins de communauté, et il leur dit là-bas, hein, De quoi doit consister une dracha de Rosh Hashanah et de Kippour, et de manière générale toute l'année. Il dit comme ça. Il dit, de manière générale, dans la tête des gens, dans la tête des rabbins, lorsqu'il arrive Rosh Hashanah et Kippour, ils se disent, c'est le moment où on doit faire peur aux gens. On doit leur faire peur, leur expliquer la gravité de leur avérot, leur montrer que c'est très grave ce qu'ils ont fait, et de manière générale, faire peur aux gens. Il dit, le rabbi là-bas, il explique longuement avec des longues preuves que c'est une erreur, que c'est pas comme ça que ça marche. Et que techniquement ça marche pas. Ça a un effet peut-être temporaire, mais c'est pas un effet durable. Que la meilleure technique, c'est quoi? La meilleure technique, c'est, dans un moment comme ça, au contraire, d'encourager les gens, d'avoir un message d'encouragement, de leur rappeler le fait qu'ils sont les enfants de Avraham, Yitzhak et Yaakov, et qu'ils ont un potentiel extraordinaire, etc., etc. Et d'ailleurs, ça on le voit clairement, l'approche chassidique sur le mois de Elul. On le voit clairement, à tel point que ça choque. Quand on voit que quand dans d'autres courants, dans d'autres milieux, le mois de Elul, c'est un mois dans lequel on est en train de pleurer tous les jours, on se dit quand c'est grave, Yom Hadin, le jour du grand jugement, on sait pas si on va passer, on sait pas si ça casse, etc., etc. C'est un moment de grande anxiété, un moment où on tremble, c'est un moment qui est dur. On voit qu'au contraire, dans la chassidoute, qu'est-ce qu'on nous dit, ça vient depuis le Baal Shem Tov, on dit non, t'inquiète pas, arrive le mois d'Elul, le roi il est dans les champs, arrive Rosh Hashanah, On va couronner Akadosh Baruch Hu en tant que roi. On est content, on va chanter, on va danser. Pourquoi ? Elle dit, mais c'est pas le moment. Simchat Torah, il faut danser. Encore une fois, c'est ce qu'on est en train d'expliquer ici. Ce qu'on est en train d'expliquer ici, c'est quoi ? C'est que Admor HaZaken nous expliquait ici que il faut quitter son cocon. Lorsque je pense que à moi, je dis oui, c'est Yom Hadin, Dieu va me juger, comment il va me juger, qu'est-ce qu'il va me dire, qu'est-ce qu'il va me faire, peut-être ça aura un effet. Mais étant donné que ma Teshuvah était une Teshuvah égoïste, forcément que mon Yetzer Hara après, il sera plus, encore plus égoïste que la Teshuvah. Pourquoi j'ai fait Teshuvah ? Parce que j'ai envie d'être bien. C'est un Yetzer Hara qui va être encore plus fort que ça, qui va dire écoute, tu vas être encore mieux, tu vas kiffer maintenant. Viens la Chassidoute, elle te dit non. Tu fais pas Teshuvah pour être mieux. Tu fais Teshuvah parce que c'est bien de faire Teshuvah, parce que c'est intéressant de faire Teshuvah, parce que c'est la bonne chose à faire. Parce que quand on élargit ses horizons, on réalise que lorsqu'on fait Teshuvah, on va couronner Akadosh Baruch Hu en tant que roi. C'est quand on réalise les enjeux généraux et l'enjeu global de ce qu'on est en train de faire, ça prend complètement une autre dimension. Et ça explique le Rabbi là-bas dans la Sira, il dit, on voit clairement que cette technique a un effet beaucoup plus durable. C'est-à-dire que on ne doit jamais faire Teshuvah avec la tristesse. Jamais. Comme une fois, je raconte une fois l'histoire du Tzemar Tzedek. Une fois le Tzemar Tzedek, il a fait une fois un mahamar très profond à ses chassidim sur la Teshuvah. C'est un mahamar très profond et un peu dur. D'accord ? Et après le mahamar, il a ouvert les yeux parce qu'il avait l'habitude de dire le mahamar avec les yeux fermés. Discours chassidique. Après le mahamar, il lève les yeux et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit que tout le monde est en train de pleurer. Alors il tapait sur la table. Il a dit, la Teshuvah, c'est également une mitzvah, et toutes les mitzvot, on doit les accomplir avec Simcha. En d'autres termes, j'accepte pas que vous faites cette mitzvah avec une souffrance. Encore une fois, être joyeux, ça veut pas dire qu'on n'est pas sérieux. Dans la tête des gens, quand je suis joyeux, ça veut dire que je suis pas sérieux. Non, pas du tout, c'est pas ça ce qu'on est en train d'expliquer ici. Au contraire. Être joyeux, ça veut pas dire que je suis pas sérieux. Il y a des moments sérieux, d'accord? C'est un moment où d'ailleurs on fait beaucoup de Tehillim, par exemple Rosh Hashanah Kippour, mais c'est quand même un moment de grande simcha. C'est ça qu'on fait des repas, etc. Quand on fait un repas de fête. Même Yom Kippour, on est Bessimcha. D'accord? Donc je reviens à notre sujet. Première technique à expliquer à l'Admor HaZaken, c'est qu'il faut élargir ses horizons au maximum. Et ça, on le voit beaucoup dans la Chassidoute. On voit beaucoup dans la Chassidoute. Que ça, vraiment, c'est une technique qu'on voit beaucoup dans la Chassidoute. Que par exemple, voilà, c'est quoi le but ici de Admor HaZaken ? Le but du Admor HaZaken ici, c'est de nous faire Teshuvah. Alors, il y a d'autres milieux, d'accord ? Bon, c'est des deux techniques. Comment on s'y aurait pris ? On en dit, bon, faire Teshuvah, on va te faire peur. On va t'expliquer ce que tu fais. Tu sais ce que tu as fait ? Bon, je vais t'expliquer. T'as fait ci, t'as fait ça, t'as sali ça, t'as cassé ça. Bon, je vais te faire peur. Ça va marcher. Sauf que, comme je viens d'expliquer, ce qu'a expliqué l'Admor HaZaken, c'est que lorsque tu veux faire Teshuvah une personne comme ça, cette Teshuvah est une Teshuvah qui a un effet temporaire. Pourquoi ? Parce qu'il le fait de manière égoïste. Alors après, il aura son ego qui sera encore plus fort, qui lui dira « Fais une avera, c'est plus sympa ». Là, l'Admor HaZaken te dit « Non, moi je te propose une autre Teshuvah. Je te propose une autre Teshuvah. Pourquoi tu vas faire Teshuvah ? Pas parce que tu as peur de ce qui va t'arriver. Parce que tu comprends que l'enjeu est tellement important que tu peux pas tout casser. Ça veut dire qu'on va me faire participer au projet. D'accord ? Ça c'est une première technique. Est-ce que c'est clair ? Tout le monde est silencieux. Soit ça veut dire qu'on a compris, soit ça veut dire qu'on dort, soit ça veut dire que c'est clair, je sais pas, bon.
On attend la suite.
Alors où on en est déjà même ? Est-ce que c'est clair la première technique ?
C'est quoi la première technique ? C'est assez vaste de toute façon. Élargir ses horizons.
Alors.
On n'a pas bien compris ce que ça veut dire.
Ah ben voilà,
on attend.
On pose des questions quand on comprend pas.
Ouais, mais...
Qu'est-ce qu'on a dit ? Pardon.
J'ai dit le fait de prendre cette hauteur, de penser comme un échama, elle est enfermée, elle n'est pas sortie, etc. Comment elle est malheureuse. Et donc ça te donne de la vera. J'ai pas constaté ça, mais je constate que c'est des moments de la vie où c'est comme ça. Mais au bout d'un moment, tu retombes, tu pètes souvent cette extase.
On parle pas de l'extase, on cherche pas l'extase ici.
Non, mais je veux dire, pour se battre contre les SRA, quand il arrive équipé,
à vrai, oui.
C'est, là... c'est pas évident de...
Ce que veut expliquer ici Admor HaZaken, Admor HaZaken ici veut développer un plan de développement durable, parce qu'il va rester longtemps. Ça veut dire, on n'est pas en train de te dire, voilà, on te donne une technique, dès que les tsars arrivent, tac, 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 d'accord, kung fu, ça, il est par terre. Non, c'est pas ça qu'on est en train de faire ici. On est en train de fortifier ton corps petit à petit, progressivement, de manière à ce qu'après ton tsara ne t'attaquera plus sur certaines choses, il t'attaquera de manière toujours beaucoup plus raffinée. Pourquoi ? Comme c'est quoi la technique ? La technique est très simple. La technique, c'est de nous faire participer au projet qu'on est en train de faire. Je vais donner un exemple, puisque, bah, au Rochem, on a beaucoup ici, on a des enfants. Et donc, quand on éduque un enfant, quand j'ai un qui vient de me passer par la tête, quand on éduque un enfant, et que l'enfant fait une bêtise, bon, t'as envie de l'éduquer à faire des bonnes choses. T'as deux manières de t'y prendre. Première manière, c'est quoi? C'est de lui faire peur. D'accord, bon, tu lui dis, voilà, soit coup de boule ou soit plus fin. Avant, tu vas dire, si tu n'es pas gentil, tu n'auras pas de cadeau, tu vas te priver de ci, pas de sortie, etc. Bon, tu vas le priver. Sauf que encore une fois, pourquoi c'est pas bon ça? C'est pas bon, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais pourquoi à terme c'est pas bon? Parce que pourquoi tu fais peur à l'enfant? Comment tu fais peur à l'enfant? Tu fais peur à l'enfant par rapport à son ego. L'enfant se dit, oui, si je vais faire une bêtise, je n'aurai pas ça.
C'est ce qu'on fait.
D'accord,
c'est
ce qu'on fait de secondes. Sauf que l'enfant, bon, peut-être ça va tenir, mais après, au moment où il a envie de faire la bêtise, il aura une envie qui est tellement forte qu'il va se dire, tu sais quoi, je m'en fiche. Je veux plus faire ma bêtise que le cadeau que Fabien a promis. Ah, oh, je m'en fiche, ça, la bêtise. Puisque tout tourne autour de son ego, ça ne marchera pas. C'est quoi la meilleure technique qui est très longue à développer? La meilleure technique, c'est d'essayer de faire en sorte que l'enfant participe à la chose. Il y a une tira du rabbi dans laquelle le rabbi explique, il raconte une histoire qui revient dans Yom Yom, qu'il y avait une fois le Tzemar Tzedek, donc toujours le Tzemar Tzedek, le petit-fils de l'Admor HaZaken, qui a posé une question à son grand-père, l'Admor HaZaken. Il lui a dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Avraham Avinu? Il a pris la parasha Vayera à l'école, dans laquelle on dit qu'Akadosh Baruch Hu s'est apparu à Avraham Avinu. Il a dit, pourquoi Akadosh Baruch Hu est apparu à Avraham Avinu, et à moi il n'est pas apparu? Il a posé la question.
C'est lui la meilleure.
D'accord? Non. C'est la question de qu'il a posé le Tzemar Tzedek à 4 ou 5 ans. 4 ou 5 ans. L'histoire dit 4 ou 5 ans. Il a posé la question comme ça à son grand-père. Il a dit, papy, j'ai une question. Ouais, j'ai appris à l'école que Akadosh Baruch Hu, il est apparu à Avraham. Pourquoi Akadosh Baruch Hu apparaît à Avraham, il n'apparaît pas à moi? Bon. Bon, Zakem lui a répondu. Il a dit, lorsqu'un juif, un tzaddik, décide à l'âge de 99 ans de faire la Brit Mila, il mérite qu'Akadosh Baruch Hu va se dévoiler à lui. Bon, ça c'est la question et la réponse. Mm-hmm. Alors, le rabbi il dit comme ça. Le rabbi dans la sira, il dit la belle chose suivante. Il dit, on va pas s'arrêter sur la réponse. D'accord?
Elle n'est pas évidente la réponse.
D'accord? On va pas s'arrêter aujourd'hui sur la réponse, on va s'arrêter sur la question. Comment c'est possible qu'un enfant de 4 ou 5 ans pose la question? Ah, alors vous allez me dire, oui, c'est le Tzemar Tzedek. Eh ben non.
Écoutez bien.
Alors ça c'est une tira, je pense, une tira élémentaire du rabbi. Le rabbi dit la chose suivante. Le rabbi dit que si le rabbi précédent nous a raconté cette histoire, c'est le rabbi précédent qui avait raconté, et il a demandé de la diffuser, ça veut dire que de là on a un message, une longue tira dans laquelle le rabbi développe, il dit qu'aujourd'hui on a la possibilité d'éduquer nos enfants, de manière à ce qu'un enfant à l'âge de 4 ou 5 ans, c'est-à-dire lorsqu'il est encore petit, il a la possibilité de faire partie du projet et de poser des questions comme ça. C'est pas comme avant. Avant, on dit, bon, quand il est petit, juste on essaye de le maintenir, après quand il va grandir, bon, il va se développer. Non. Aujourd'hui, on est dans une période, et c'est pour ça que le rabbi a développé Tzivat Hashem, par exemple. Parce que le rabbi part de la base que plus on s'approche de Mashiach, et plus même les enfants, ils peuvent participer au projet à tel point qu'ils se sentent part du projet comme des adultes. À leur niveau, mais ils se sentent qu'ils font partie du projet. C'est exactement ce qu'on va expliquer ici l'Admor HaZaken. La première technique. C'est quoi la première technique? La première technique, c'est que quand un joueur il joue mal, tu vas pas simplement lui dire, tu sais, tu as mal joué, alors après on va perdre, etc. Qu'est-ce que tu fais, etc. Non, parce que ça marche pas ça. Si tu tournes autour de l'ego, son ego sera plus fort au moment où il est en train de faire la vera. Donc ça marche pas. Si tu vas voir un très bon joueur, comment tu dois faire? Tu dois éveiller en lui l'importance, l'enjeu de ce qu'il est en train de faire. Qu'ils comprennent que c'est très très important ce qu'il fait. Que c'est pas simplement de l'argent qu'il est en train de gagner et un nom qu'il est en train de se faire. Il y a un enjeu ici. Bon, dans le foot, il n'y en a pas certainement, mais...
L'esprit d'équipe.
Non, mais pas seulement l'esprit d'équipe. L'enjeu qu'il y a derrière tout ça. Que si notre équipe va gagner, etc., etc. L'enjeu, d'accord? Il y a un enjeu ici. Et c'est ce que l'Admor HaZaken a expliqué dans le premier point. Comprendre d'où notre Neshama vient, où elle est arrivée. Lorsque je fais une avéra, qu'est-ce que je fais? Je prends cette énergie, je prends la balle et je la mets dans le camp adverse. Imagine comment c'est grave. Lorsque je me sens part du projet, oui. C'est autre chose, ça n'a rien à voir.
Il est difficile à voir. Tout est caché, tout est masqué, on vit dans le brouillard.
Tu as raison. J'ai pas dit qu'on le voit l'enjeu.
Si encore au moins une fois t'avais été dans le palais, t'avais vu le truc, etc.
C'est clair. Mais c'est, dans ce cas-là, on n'aurait jamais fait d'avérote. C'est évident.
Tu vois ce que je veux dire?
Mais, j'ai compris.
Tu t'es bourré la tronche avec des idées, mais c'est pas vrai.
Bah, pareil.
Je sais pas, au bout d'un moment.
Quand on dit qu'on va se punir, pareil, c'est possible qu'on te bourre la tête avec des idées.
Non, on va se punir.
Quoi? Qu'est-ce que t'en sais?
Parce que t'as l'habitude de taper des raclés quand t'étais petit, etc.
Mais qu'est-ce que t'en sais que celui qui fait une avérote, on va le punir?
Si quelqu'un te dit, par exemple, si vous avez une relation sexuelle avec cette femme, vous risquez d'attraper le sida, et le mec, il voit des gens qui ont le sida, dans quel état ils sont, ça risque de le bloquer quelque part. Hein.
Bon, mais si la femme elle est très belle, ça le bloquera pas.
Si.
pense pas.
Si, si, si. Moi, les gens que je connais qui ont été fumés, vraiment, qui ont vraiment arrêté, qui étaient des gros fumeurs, et quand ils ont été à l'hôpital, ils étaient confrontés avec des gens qui avaient des trucs à la gorge, etc. Pour moi, ils ont arrêté direct.
Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Parce que là, ils ont eu peur.
Non, mais c'est pas seulement peur, non, encore une fois, ce qu'on a expliqué. C'est que la peur, ça, la peur à elle toute seule, ça ne suffit pas. La peur, ça a un impact limité et temporaire. Il faut le savoir, ça. Faire peur, ça ne marche pas. D'ailleurs, tous ceux qui ont des enfants, je suis sûr qu'ils ont dû le voir sur leurs enfants. Faire peur à un enfant, ça a un impact temporaire. Ça sert à rien. C'est ce que je pense, hein. Je pense,
Mais là, on parle de scientifiques de
l'âge. On parle pas d'enfants, là, pour l'instant.
D'accord? Pardon?
On parle pas d'enfants, je parle d'adultes.
C'est la même chose.
C'est pas du
on est des enfants, nous. Mais bien sûr.
Non,
mais c'est quoi, alors?
C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. L'enfant et l'adulte, c'est pas la même.
C'est la même chose. C'est que nous, on est en train de s'éduquer. Et que un enfant, c'est la même chose. Un enfant, il comprend pas forcément tout ce que tu lui dis, tous les détails que tu lui dis. Mais lorsqu'il comprend qu'il y a un enjeu, quelque chose d'important,
ouais, t'as pas d'accord. l'impression d'être un enfant devant une Avera. Tu dis c'est un enfant, mais devant une Avera, finalement on a un comportement
l'enfant,
d'enfant.
L'enfant, c'est pas une Avera.
Bien sûr.
Mais non, mais par image.
T'as un comportement d'enfant. T'es pas, on peut pas dire que t'es responsable devant une Avera. Si t'étais responsable, tu ferais pas d'Avera.
Moi, je pense qu'un enfant, quand il fait une bêtise, il sait très bien qu'il fait une bêtise.
C'est pareil.
D'accord. La preuve, c'est quoi, hein? Comme j'ai expliqué, je crois que je l'ai dit il y a deux semaines. J'ai dit la preuve, c'est que l'enfant, il sait exactement quand il doit s'arrêter, de crier, de pleurer, de faire ses bêtises. Il sait exactement. C'est exactement. Il voit que dès que il sait exactement quand il dépasse les limites, l'enfant il sait tout seulement quoi. L'enfant est égoïste. L'enfant est égoïste. Un enfant c'est écrit. Rambam il dit qu'un enfant, une personne naît égoïste. Et il en a rien à faire de personne. Il dit moi je pleure, moi je veux mon bonbon, je pleure, je n'ai rien à faire de personne. Je fais honte à mon père, je fais honte à tout le monde, je n'ai rien à faire. Je veux mon bonbon. Nous la même chose, on est des enfants. Par rapport à ça, par rapport à la Vera, comme il dit, on est des enfants. C'est-à-dire qu'on est des enfants, ça veut dire qu'au moment où tu fais une Vera, tu n'as rien à faire de personne. Je m'en fiche le monde, les forces du monde, etc. Moi je fais mon kiff, tu me laisses tranquille maintenant. C'est ça qui dit, pour ça qu'il dit la Gemara Zakan que faire peur ça ne marche pas forcément. Ça va marcher mais ça aura un impact limité. Il y a une technique qui est beaucoup plus développée, c'est quoi? C'est une technique qui prend toute une vie. C'est de se rappeler constamment et d'étudier constamment les enjeux
constamment.
Généraux, d'accord? L'enjeu général, l'enjeu global d'une mitzvah et d'une avera. C'est pour ça, bien sûr, constamment.
Bah, oui.
C'est pour ça que dans la chassidout, très souvent dans les cours de chassidout, j'entends souvent des gens qui posent la question. Qui me disent, oui, mais la chassidoute, on a l'impression qu'on parle de choses, c'est abstrait. C'est pas faux. Ouais, pourquoi on parle de tout ça, ces trucs abstraits? Pourquoi on parle pas des choses concrètes, là, la chassidoute, des choses concrètes, des choses pratiques? C'est justement, c'est ça le but. Le but, c'est d'essayer de nous faire partie des enjeux qui se passent, des enjeux généraux. Même si on va pas les comprendre. Le but, c'est pas de les comprendre. Le but, c'est au moins de savoir qu'il y a un enjeu et de comprendre un petit peu. De comprendre au moins les contours de cet enjeu. Et de cette manière-là, de manière durable, c'est beaucoup plus facile de combattre le Yitzhara avec cette manière-là qu'en combattant le Yitzhara par la peur. C'est une première technique de la Gemara Zaken. Cette première technique ne vaut rien si on appelle la deuxième technique. Écoutez bien. C'est quoi la deuxième technique? La deuxième technique, avec ce qui est ici, Vehabet, c'est qu'en parallèle à cette première technique de comprendre les enjeux, donc on a expliqué, bon, d'accord, on l'a expliqué longuement. Donc là, j'ai rajouté aussi des éléments qu'on n'a pas dit la semaine dernière. Vehabet, la deuxième chose. Levatesh ou Leachnia Aklipa Vesitraha. La première technique qu'on a dit, comprendre les enjeux, ne vaut rien du tout, je suis à la quatrième ligne, si elle n'est pas couplée, si elle n'est pas couplée à une deuxième technique qui est de casser et de soumettre les forces du mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut un petit peu se casser.
Ouais, c'est ça le plus dur.
Alors ça c'est plus dur, vous allez voir, comment il va nous donner des techniques comment de se casser. Parce que oui, sinon c'est parce que le problème qu'il y a, le piège qu'il y a dans le message de la chassidoute aussi, c'est quoi? C'est que quand dans chaque chose on cherche le bien, on cherche l'aspect positif, on cherche tout ce qui est positif et comment l'enjeu, etc., etc. Après finalement, la Vera me dérange plus parce que je dis bon, c'est pas grave, ça va, ça fait partie. Ça me dérange plus parce que vous savez ce qui se passe? Le problème c'est que quand on se met à réfléchir comme un patron, d'accord, il n'a pas peur de faire des petits écarts parce qu'il dit ça va, je gère. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire?
Oui.
C'est-à-dire comme ça. Vous avez une personne, encore une fois.
Même des gros écarts.
Je vais reprendre l'exemple, d'accord? À ce temps poli.
Je parlais de trésorerie, moi, je parlais pas de
trésorerie.
J'ai compris, ouais. Alors.
J'ai pas entendu.
J'ai dit des gros écarts.
Oui, j'ai compris. Moi, j'ai répondu à rien du tout, j'ai dit. Tu vois, en train de rigoler, j'ai dit, on peut pas. Alors, on va reprendre l'exemple avec l'enfant.
Je dis l'alimentation. Je sais très bien par expérience que souvent tout c'est à peu près 80% de l'espèce, c'est pas mal. C'est pour ça que je dis ça.
Dans quoi?
Oui.
Pas
alors,
l'alimentation.
Je reprends l'exemple que je... Je reprends l'exemple que je suis en train de donner. D'accord. On va prendre l'exemple. Bon, mais c'est rien à voir.
C'est sur Facebook.
Mais tu parles d'écart.
Attends. On va rajouter. Je vais reprendre l'exemple que j'ai donné tout à l'heure par rapport à l'éducation de l'enfant. Messieurs. On va pas quitter le sujet. Regardez, écoutez. Je vais reprendre l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure, c'est quoi? J'ai dit, voilà, je suis en train d'éduquer mon enfant.
C'est vrai.
D'accord, messieurs. Je suis en train d'éduquer mon enfant. Très bien, on a expliqué. Et j'ai pas envie de l'éduquer par la peur. J'ai envie de l'éduquer par l'explication, en lui expliquant. Donc je vais lui expliquer, mon fils, tu sais, c'est bien de faire ci, c'est pas bien de faire ci, etc., etc. C'est-à-dire que je veux lui donner une certaine autonomie. Et on a expliqué que ça aura forcément un impact qui est beaucoup plus durable. C'est très bien. Sauf qu'il y a un problème. Lorsque tu lui donnes une autonomie, ce qui peut se passer, c'est qu'après, avec le temps, lorsqu'une personne se sent autonome, bah, il se permet de faire des écarts. Il se permet des fois de t'écraser, de te dire, bon, je suis pas d'accord avec toi, tais-toi, d'accord? Bah oui, parce que tu lui donnes une autonomie, il devient autonome. Donc il y a un piège ici. Vous comprenez le problème? C'est-à-dire, d'un côté, on a expliqué comment on doit travailler avec le Yitzhara, on doit à chaque fois chercher dans une mitzvah, dans chaque chose, l'aspect global, les neshamot, les trucs, on doit chercher à chaque fois, c'est ce qu'on essaie de faire. Sauf qu'il y a un problème, c'est qu'après quand on commence à comprendre le rouage du système, on peut se sentir des fois une certaine autonomie. Je dis bon, ça va, c'est pas grave, je gère. C'est pour ça que cette première technique ne vaut rien si elle n'est pas couplée de la deuxième technique. C'est quoi la deuxième technique? La deuxième technique que va expliquer la Admorah Zaken ici, c'est on doit constamment casser son système. Et on va donner des techniques qui étaient valables à l'époque de la Gemara, à l'époque de l'Admorah Zaken et à notre époque. D'accord? Vous verrez comment avec le temps ça descend et comment après on verra ce que le rabbi explique sur tout ça. Asher, kol chayuta, irak, prinat, gassout ve'agba. Il faut se rappeler que, on doit se rappeler que toute l'énergie des forces du mal, c'est seulement gassout ve'agba. Gassout, ça veut dire la grossièreté. Ve'agba, et le fait toujours de se sentir perso, je fais ce que je veux. Comme c'est écrit, imtakbi akanesher, que par définition, c'est quoi l'élément principal des forces du mal? Comment on définit une force du mal? C'est quoi une force du mal? Dit l'Admorah Zaken, élément numéro 1 d'une force du mal, c'est qu'elle s'élève et qu'elle fait ce qu'elle veut. C'est ça la force du mal. C'est quand je commence à faire ce que je veux. Et là, il y a un problème. Ve'abitush ve'achna adafar mamash zoe mitata uvitula. Étant donné que l'élément principal des forces du mal, c'est le fait de penser d'avoir une autonomie, et c'est malheureusement, c'est ça, quand une personne devient rachat, qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Il dit, je fais ce que je veux. C'est ça ce qui le rend rachat. C'est qu'au début, il a peur, et après, avec le temps, il a plus peur. Et quand on a plus peur, c'est là qu'on commence à faire ce qu'on veut, et c'est là qu'après, une fois qu'on fait ce qu'on veut, on descend. Comment on casse le Yitzhara? On casse le Yitzhara, comme il dit ici l'Admorah Zaken, en cassant son désir jusqu'à de la poussière. C'est-à-dire, lui dit, tu veux, ben, on te donnera pas. Alors, ça veut dire quoi, en clair? Expliquez. D'accord? Vaïnou, ça veut dire, aliédé, lève nishbar venitke, ça veut dire qu'il faut arriver à avoir un cœur brisé et opprimé. Ça veut dire qu'on est triste. Veliot nivze benav nimas. Qu'à un certain moment, lorsqu'on fait teshuva, et c'est constant, on doit avoir un sentiment d'être moins que rien à ses yeux. Comment c'est possible?
Non mais, excuse-moi, il donne pas la technique comment arriver à ça.
Attends, on va arriver.
Il va
progressivement. D'abord, il donne les pistes. Après, tu vois, comment plus on avance, et plus on rajoute des détails. D'abord, on explique ce que c'est la teshuvah. Après, on explique le rouage du système. Après, on explique les techniques. Après, on va expliquer comment arriver aux techniques. On est en train d'étoffer petit à petit. On a commencé par la Gemara, la Mishnah. Tu vois comment il étoffe? La Admorah Zaken étoffe petit à petit. C'est ce qu'on est en train de voir ici.
Oui, à un moment donné, il doit y avoir quelque part quelque chose d'assez fin et subtil pour qu'on n'arrive sûrement pas à deviner pour qu'on arrive.
Deux techniques. Voilà, deux choses. Première chose expliquée à l'Admorah Zaken, c'est qu'il faut essayer d'élargir ses horizons. Pas avoir juste des connaissances basiques, faites. Dire oui, ça c'est permis, c'est interdit. Là, ça marche plus aujourd'hui. Si tu veux gagner ton état, il faut élargir ses horizons au maximum. Il faut que tu vois grand, large.
Il faut faire du yoga.
D'accord. Large, vois très large. Lorsque je fais une mitzvah, je suis en train de changer le monde. D'accord. Comment on voit? Le rabbi répétait souvent cette phrase que Rambam dit, qu'une personne lorsqu'il fait une mitzvah, il doit s'imaginer comme si qu'il a le monde devant lui, sur une balance. Et que c'est sa mitzvah qui va faire pencher le monde vers le bien. Vous imaginez combien d'égoïsme il faut pour dire ça? A priori? Eh ben non. Au contraire. C'est que c'est une manière d'élargir ses horizons, de dire ce que je fais est très 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 important. J'ai un travail très important. L'enjeu est important. Ça, c'est la première technique. Mais encore une fois, cette technique à elle seule ne peut pas suffire. Ça, c'est la technique de la semaine dernière. Pourquoi ? Parce qu'une personne, lorsqu'il sent comme ça qu'il a le monde entre ses mains, bah, il fait ce qu'il veut. Bah oui, c'est double tranchant. Lorsque je sens que j'ai le monde entre mes mains, je fais ce que je veux. Je gère. J'ai attention. Il y a une deuxième technique qui est qu'il faut avoir des moments qu'on va développer dans lesquels on doit casser son Yetzara. On en a parlé plusieurs fois, surtout dans les premiers chapitres du Tania.
Oui.
D'accord ? Cette notion de Itkafia. C'est quoi Itkafia ? Vous vous rappelez c'est quoi Itkafia ? Ceux qui étaient là dans le premier chapitre.
On a dit que si tu prenais une bûche, tu n'arrives pas à la faire brûler.
Alors,
tu la coupes un petit morceau.
C'est quoi Itkafia ? Voilà, par exemple, j'ai devant moi des beignets.
C'est technique pour se briser.
J'ai envie de beignets.
Comme ça, c'est facile, ça.
D'accord.
T'attends un petit peu.
D'accord.
Ça, c'est pas très dur parce qu'on en a mangé 10 avant.
Ah bah oui.
Oui, mais bon.
Ça, c'est...
D'accord. C'est quoi Itkafia ?
C'est sûr, parce que c'est crème pâtissière.
Et alors ?
Et alors ?
La fête framboise. Non, crème pâtissière, quand même, c'est...
Tu vois pas, c'est le nom, hein.
Surtout après, après manger, c'est bon, pas très vivant.
Mais il n'y a pas d'acharade.
Si.
Il n'y a pas.
Si, c'est bon. Je la journée, pas
pour.
C'est quoi ? C'est Tara, il sait qu'on frappait.
C'est les mêmes qu'on avait.
Ah, ouais.
Non, moi, il veut pas, mais moi, il m'a fait manger. Et quand c'est...
Il n'y a pas de matin, vous voyez ?
Alors ?
Pas dur.
Non, mais nous, on a laissé tomber simple.
Ils sont pris dans le cours, hein. Donc, je suis en train d'expliquer. D'accord ? Le problème qu'il y a dans cette technique-là, la première technique, c'est que quand tu sens que tu as le monde entre tes mains, ça te permet une certaine autonomie. Donc, c'est pas bon. Il faut également, à part ça, avoir des moments dans lesquels on va casser son Yetzara. Alors, casser son Yetzara, la Gemara Zaken va expliquer par la suite. Il va dire qu'à son époque, on faisait ça par les jeunes. Alors, c'est une personne jeune, qu'est-ce qu'il fait ? Il casse son Yetzara.
Ça, c'est une bonne technique.
D'accord ? Bon. Sauf qu'aujourd'hui, on sait très bien, on l'a déjà expliqué au début de Gerata Tchouva. Aujourd'hui,
vendredi soir.
Oui. Aujourd'hui, vois, d'accord.
On peut un peu souffrir avant d'affronter le.
Ouais. Sauf que aujourd'hui.
Là, peut-être qu'on peut avoir un peu d'humilité, mais sinon.
Alors, écoute bien. Aujourd'hui, lorsqu'on jeûne, ça nous affaiblit. Ça ne nous permet pas d'accomplir Torah Mitzvot comme il faut. Donc c'est pas bon. Jeûner, c'est pas bon. Par contre, ce qu'on peut lui faire, d'accord, c'est se retenir. J'ai envie, ben c'est pas grave, j'ai envie. Mais on doit se l'apprendre à nous-mêmes et l'apprendre à nos enfants. C'est pas parce qu'on a envie de quelque chose qu'on doit l'avoir.
Mais comment tu
d'accord. Alors, chacun a ses envies. D'accord. Un, il peut avoir envie de manger, l'autre, il peut avoir envie de boire, l'autre, il peut avoir envie de sortir, l'autre, il peut avoir envie d'un iPhone, l'autre, il peut avoir envie d'un jeu, de ce que tu veux. D'accord. J'ai pas dit que c'était interdit. J'ai dit, le fait que je dis je veux, donc je dois l'avoir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est déjà les forces du mal. Parce que c'est quoi les forces du mal par définition ? Le point numéro 1 des forces du mal, c'est, comme il a dit ici, je m'élève. Je suis quelqu'un, je dois avoir tout ce que j'ai besoin. C'est quoi ? Comment on casse les forces du mal ? Comment on casse les forces du mal ? On casse les forces du mal comme on lui dit, je veux, et alors si je veux ? C'est pas parce que je veux que je dois l'avoir. Qui je suis ? Qui je suis pour vouloir et que parce que je veux, on doit me donner ?
Comme le beignet, tu vas te retenir d'en manger un ce soir, mais demain tu vas en manger deux.
Bah du tout.
C'est demain.
Chaque fois.
Non mais... C'est l'idée.
C'est un exemple.
C'est un exemple. Je vais faire en manière. Je vais vraiment chercher un deuxième, t'inquiète pas. Mais...
D'accord. Écoute, hein.
C'est pas parce que je veux que je dois avoir.
Tu peux accomplir quelque chose de... Tu peux dire que je suis pas obligé d'avoir.
On est d'accord ?
Je suis pas un enfant gâté.
C'est forcément mal.
Oui, encore une fois, c'est pas forcément, par exemple, d'accord, c'est pas forcément le beignet, c'est pas forcément comment j'ai un beignet, c'est assourd, au contraire, je vais faire une bracha même, c'est pas ça, c'est le fait de dire j'ai envie, donc il me le faut, ça, écoute bien, ça c'est déjà quelque chose qui risque de m'amener à une avéra, parce que si j'accepte que j'ai envie, donc il me le faut, donc maintenant j'ai envie d'une bonne chose, donc il me le faut, demain j'aurai envie d'une chose interdite, il me la faudra aussi. Puisque quand je veux, il me le faut. D'accord ? Donc en parallèle à la première technique qui te dit élargis tes horizons, essaie de comprendre les enjeux de ce que tu fais, attention. Il faut aussi la deuxième technique qui dit, c'est pas parce que tu
mais
le veux
c'est
que
pareil,
tu
l'as. Mais si je veux faire quelque chose de bien, je le veux aussi. Même si je veux pas faire, je veux faire une mitzvah, il faut que j'ai avec envie de faire la mitzvah.
Mais je ne le fais pas parce que je le veux.
Si,
non,
j'ai envie.
Pas du tout.
Moi aussi, pourquoi ?
Non, j'ai envie de faire.
Bon.
Je vais parce que je veux le faire.
Mais tu dois le faire là-bas.
D'accord ? Parce que je dois
le
faire.
Non, au contraire, vaut mieux le vouloir que le devoir.
Bien sûr, mieux le vouloir. Mais c'est pas parce que ce qu'on a expliqué.
Ah bah si tu le
c'est
vois,
pas parce
tu
que...
dans le subi,
tu as raison.
C'est pas la peine.
Mais sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas je fais pas la mitzvah parce que j'en ai envie. Tu comprends ? Bien sûr, je dois avoir envie de faire mieux, mais je la fais pas parce que j'en ai envie.
Oui, c'est faut pas que j'en
tire une seule parce que sinon, exactement, Emet Veyachar. Pourquoi ? Parce que sinon demain j'aurais plus envie de faire une avéra. Qu'est-ce que tu diras là?
Si tu le fais pour toi ou si tu le fais parce que c'est pas.
Bah oui, ce qu'on a expliqué. C'est là que vient la deuxième technique de Diad Mourazak, il dit attention. Il dit, quand tu comprends l'enjeu, l'importance de ce que tu es en train de faire, doit venir la deuxième technique qui te dit quoi? La deuxième technique qui te dit attention, attention, c'est pas parce qu'on veut quelque chose qu'on doit l'avoir. Et ça c'est quelque chose qu'on peut se travailler dans ça toute la vie, tous les jours, toutes les journées.
On doit se faire du mal.
D'accord? Non, j'ai pas dit ça.
On doit se casser.
Non. Attention, écoute bien. J'ai pas dit ça.
On doit avoir le cœur
brisé. Il y a la chita du moussard, bon aujourd'hui ça n'existe plus ça, qui dit que faut casser son, comment on casse son etc. Ils allaient dans des fourmilières, et il fallait que des fourmis montent sur ton corps et que tu te sentes moins que rien. Ça, c'est pas ça ce qu'on a dit, non. Au contraire.
Non, on a pas dit ça.
On a dit non. Au contraire, les enjeux, le corps est très important, c'est, il fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, je suis un pion très important, c'est moi qui fais balancer le monde, etc. Mais, attention, c'est pas ça ce qu'on veut supprimer. On va pas attaquer sur le corps, on va attaquer dans la tête.
Le cœur, on a dit, pas le corps.
Dans la tête, c'est dans la tête. Que dans la tête, on te dit, ne crois pas que c'est parce que je veux quelque chose que je dois l'avoir. Bien sûr que l'enjeu est très important.
Qu'est-ce qui va m'empêcher,
d'accord? Mais, c'est pas parce que je veux quelque chose que je dois l'avoir. Et quand on réfléchit bien, parce que ça prend du temps, quand on réfléchit bien, on voit que la majorité des avérotes qu'on fait, des gaffes qu'on fait, peu importe, dans sa vie familiale ou au travail, tout ce que vous voulez, la majorité des bêtises qu'on fait, c'est lié à ça. Que j'ai envie, donc j'ai fait.
Parce qu'à un certain moment, on réfléchit pas.
J'ai envie, je veux. Là, donc, vraiment, je veux, donc on me le doit. C'est mes droits. C'est de là que démarrent tous les problèmes. On n'est pas en train d'expliquer que je dois me casser, que je dois me sentir moins que rien. C'est pas ça. En train d'expliquer qu'il faut enlever ce sentiment de... Il faut enlever ce sentiment de « je veux, donc on doit me le donner ». C'est ce qu'il dit de Mourazakhen. Et ça, c'est ce qu'on appelle « nivze benav nima ». C'est qu'à un certain moment, lorsque le Yetzer arrive et te dit « tiens, on va prendre ça ». Il dit « non ». Il dit « pourquoi tu te prends ?» Pourquoi tu te prends quoi? Parce que tu veux, on doit te le donner. Pourquoi tu te prends? T'es moins que rien. Ou « kumo shekatou bezoar akadosh ». On va avancer encore quelques lignes, on va développer encore. Comment chez Katou Bezoar Akadosh Al Pasuk Zivre Elokim Ruach Nishbara Lev Nishbar Venitke. Il y a un verset dans Tehilim, le psaume 51, le psaume de la Teshuvah par excellence, qui dit que c'est quoi le sacrifice de Elokim? Elokim. Ben, on sait qu'il y a deux noms de Dieu, il y a Hachem et Elokim. C'est quoi le sacrifice de Elokim? Ruach Nishbara, c'est un esprit brisé. Lev Nishbar Venitke, un cœur qui est cassé et opprimé. Alors écoutez ce qu'il nous fait remarquer la Mourazakhen. Il dit comme ça, il dit. Qui colle Corban mina behema ou le Shem avaye midat al-Khamim. On remarque que chaque fois qu'on offrait un sacrifice de l'animal, comme on le lira dans le Chumash Vaikra, chaque fois on fait mention du nom Yutke Vavke. Corps Ado, virgule, Nai. Qu'est-ce qu'il dit dans Tehilim ici, le roi David? Il dit Zifre Elohim. Que dans quel cas, ça veut dire que quand on amène un sacrifice avec un animal et qu'on va dire que bon, l'animal va me remplacer en vérité, qui c'est qui peut dire ça? Pourquoi l'animal va me remplacer? Pourquoi cette histoire? Qui c'est qui peut faire ça? C'est seulement le Yudke Vavke, Hachem, Ado, virgule, Nai. Que ça, c'est la mida de Rachamim, la mida de la miséricorde. Et que je demande la miséricorde à Kadosh Baruch Hu, je dis, écoute, à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie, fais comme si que la teshuvah, que le fait que l'animal est mort, c'est comme si que moi je suis mort. Mais en vérité, en parallèle à ce Yudke Vavke, au sacrifice, il faut avoir Zifre Elohim. Il faut avoir un sacrifice qui est lié également au nom d'Elohim, ça veut dire qu'il faut avoir une teshuvah naturelle. C'est quoi la teshuvah naturelle, dit l'Admor HaZaken? Aval l'Eshem Elohim imidat adin, mais si on voit la midat adin, en makrivin comme en bema. Ça veut dire quoi? C'est pas la bema qui a fauté, c'est l'animal qui a fauté? C'est moi qui a fauté, pourquoi t'amènes un animal à ma place? Pourquoi j'amène un animal à ma place? C'est une pensée que l'on doit avoir au moment où on amène son sacrifice. Que je vais me dire, normalement, c'est moi qu'on devait mettre sur ce sacrifice. C'est moi qu'on devrait sacrifier. Ah, pourquoi on amène un animal? Parce que je demande la miséricorde à Kadosh Baruch Hu. Mais ça ne m'excuse pas, et je ne dois pas me sentir que ça y est, je gère, tu gères rien du tout. C'est toi qu'on aurait dû mettre sur le feu. Ki im le shaber ou le avir, ruach atuma vezitrahara, vezeu, ruach nishbara. Et c'est de ça que le roi David y parle dans le psaume 51. Il dit que finalement, à quoi on cherche à arriver lorsqu'on fait teshuva? On cherche à supprimer ce sentiment d'ego, qui dit je veux donc je fais. Et que même lorsqu'une personne fait teshuva, on peut avoir, comme j'expliquais la semaine dernière, une teshuva par ego. Une personne à un certain moment, il se dit bon, ça y est, j'ai exagéré. Exagéré, ça y est. Et qui va faire teshuva par ego. Cette personne-là, c'est clair qu'il va retomber. Pourquoi c'est clair qu'il va retomber? Parce que comme il a fait teshuva par ego, le jour où son ego le dira maintenant tu dois retomber, il retombera. C'est ce qu'il dit à Mourazakhen, il dit non. Zifre Elohim, en parallèle au korban, au sacrifice de l'animal qui est lié à Shemyut, qui est Vavke, ça correspond à Rachamim, à la miséricorde. En parallèle à ça, il faut un Zifre Elohim, il faut un sacrifice qui est lié au Shem Elohim. C'est quoi le Shem Elohim? C'est le nom de Dieu qui est lié à la nature. Il faut un sacrifice naturel. C'est quoi un sacrifice naturel? Briser son esprit. Se dire, pour qui je me prends? Comment parce que j'avais envie, j'ai fait une avéra? Qui je suis? Et c'est ça ce qui casse le Yitzhara. Ce qui casse le Yitzhara, c'est quand je lui dis, c'est pas parce que je veux que je l'ai. Et donc vous comprenez que là, l'Admor HaZaken, encore une fois, il a élargi les enjeux. Nous, on pensait qu'une avéra, c'est seulement, ça se limite uniquement aux 365 mitzvot négatives. Je dis, Admor HaZaken, non. Une avéra, le Yetzerara ne se limite pas seulement aux 365 avérotes négatives. Le Yetzerara, il a une idée générale. C'est quoi son idée générale? C'est fais ce que tu veux, fais ce qui te passe par la tête. On est dans la fête de Hanouka. Alors, on sait très bien que fête de Hanouka, qu'est-ce qu'on a combattu principalement? On a combattu principalement
la philosophie grecque.
Qu'est-ce qu'elle disait la philosophie grecque? Chez les Grecs, il y avait un grand philosophe qu'on appelait, d'accord, Épicure. D'ailleurs, c'est de là qu'est venu le mot Apikoros. D'accord. Attendez. Qu'est-ce qu'il disait Épicure? Épicure, il disait, faites ce qui vous passe par la tête, ne vous occupez pas, il n'y aura pas de lendemain. Ce qu'il disait aux gens, voilà, c'est une phrase, c'est lui le premier, il n'y aura pas de lendemain.
Oui.
D'accord? Il n'y aura pas de lendemain, ne te prends pas la tête, fais ce que tu veux.
Oui.
D'accord? Ce qui est important, c'est que tu vives ce que tu fais. D'accord? Fais ce qui te plaît. Et encore une fois, d'accord, ce qu'explique le rabbi sur ça, hein, c'est qu'on voit que, et on l'a vu aussi, ça, on l'a vu aussi dans le mouvement des... On a parlé, je vais être midi. On le voit aussi dans le mouvement des réformés. D'où a démarré le concept des libéraux. D'accord? Ça a démarré par des rabbins. Ça a démarré il y a à peu près un siècle et demi par des rabbins. Il y a des rabbins qui se sont dit, écoute, ce serait bien qu'on explique la Torah de manière scientifique. Bon, a priori, c'est louable comme initiative. D'accord? On appelle ça l'émancipation. Mais il faut savoir que les premiers, ceux qui ont... Comment ils ont réussi? Écoutez bien. Ils ont démarré d'abord, et ceux qui l'ont fait voulaient bien faire. Ils ont dit, faut trouver des raisons modernes, des raisons scientifiques, des raisons que les gens vont accepter, des raisons qu'on puisse expliquer au goyim. Ça peut être louable. Sauf que les rabbinim de cette époque-là, tout de suite, ont vu le problème où ça permet. Pourquoi le problème où ça permet? C'est très simple, le problème est très simple. Le problème est que, on commence comme ça, on commence à dire, bon, il faut que je comprenne ce que je fais. Donc ça veut dire que, j'arrive à la conclusion que c'est très important que je comprenne ce que je fais. Bon, ça veut dire que ma personnalité est très importante. Après, avec le temps, ça touche que l'esprit pour l'instant.
Ouais.
Les sentiments ne sont pas touchés. Mais après, ça descend forcément. Ça arrive aux sentiments aussi, ça arrive au comportement. Que dans le comportement aussi, je dis, bon, il faut que je comprenne ce que je fais. Donc lorsque tu me demandes de ne pas allumer du feu Shabbat, moi ça me parle pas. Moi je dis non. Pour moi, ce que Dieu voulait dire, c'est que Shabbat, on doit pas travailler. Que Shabbat, on doit pas consommer de l'énergie. Mais prendre la voiture pour aller à la synagogue, je vois pas le problème. Bah oui, parce qu'encore une fois, c'est quoi le problème? C'est que lorsqu'on te dit que le plus important c'est que je comprenne et que je vois où je vais, au début c'est que le cerveau, après progressivement c'est le comportement, et après on se retrouve même à faire des choses qui sont plus bas que le comportement. Comme ce qu'on a vu, l'exemple que le rabbi ramène là-bas, c'est l'exemple des Allemands, ils marchent même. Qu'est-ce qu'on a vu chez les Allemands? Au nom de leur culture, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit il faut tuer les juifs. Je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. C'est pas des gens qui ont dit bon, on a craqué, c'est trop dur pour nous, on veut tuer du juif. Non. C'est des gens qui ont développé une idéologie et que leur idéologie leur a dit il faut tuer le juif. Est-ce que vous voyez la gravité? D'où ça vient ça? Comment une personne peut lui rentrer une idée pareille dans la tête? À la limite, j'aurais plus accepté qu'ils me disent voilà, comme les Arabes, ah, il a craqué, c'est trop dur pour lui, il a le sang chaud, il a tué. Bon, ah, il a le sang chaud, ça arrive les gens qui ont le sang chaud. Ça arrive.
Là c'était méthodique.
Là c'était méthodique, c'est une idéologie. C'est ça Hanouka, c'est ça les Grecs. Le Grec c'est celui qui te dit fais ce qui te passe par la tête. Le problème qu'on a, c'est que quand on fait ce qui te passe par la tête, on peut dans la tête, il peut passer des choses tordues, mais complètement tordues. Des choses qui ne veulent rien dire. Et le cerveau peut tout accepter, le cerveau peut tout expliquer. Et là vient le message de Hanouka, le message du Messie Route Nefesh de Hanouka. Comme on voit dans le Veil Anissim, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'ils voulaient nous faire oublier les Grecs? Ils voulaient nous faire oublier Torah Techa. Le fait que la Torah est la Torah de Dieu. Pas la Torah. Le fait que la Torah, le fait qu'il y a une science, ils acceptent. Mais l'aspect kabbalatol, l'aspect annulation, l'aspect bitoul qu'on doit avoir à Kadosh Baruch Hu, on dit non, on n'accepte pas ça. Vous voulez faire vos mitzvot? Faites vos mitzvot. Mais c'est quoi cette histoire là? Votre fiole d'huile ne doit pas être... Ça y est, quelqu'un il l'a touché, alors ça y est, ça devient impur. Non, arrêtez avec vos histoires. Ça, on n'accepte pas ça. L'huile, pourquoi pas? La lumière, pourquoi pas? Vous voulez étudier votre Torah, c'est intéressant, pourquoi pas? Mais cet aspect divin nous dérange. C'est pour ça que les Grecs n'ont pas cassé les fioles d'huile, ils les ont souillées. C'est ça le message de Hanouka. Le message de Hanouka, c'est que comment on peut combattre ça? Seulement par le Messirut Nefesh. Est-ce qu'il est en train d'expliquer ici la Morazaka dans le deuxième point? C'est un mamache en rapport avec Hanouka. Que comment on combat le Yitzhara en lui disant c'est pas parce que tu veux que tu l'auras. Dans les Réchimotes du Rabbi, Rabbi il explique là-bas, il dit qu'on voit que Yavan en hébreu veut dire Yavan en hébreu, ça veut dire la Grèce, d'accord? Yavan en hébreu, je sais pas, t'étais Raphaël au cours Shabbat? Je veux dire pour ceux qui sont pas là. Alors, Yavan en hébreu, le Rabbi là-bas il explique, il dit qu'Yavan en hébreu veut dire le ciment. D'accord? En hébreu, Yavan c'est-à-dire du ciment. Il a expliqué là-bas que c'est quoi le ciment, par définition? Le ciment, c'est l'eau mélangée avec la boue, exactement.
Ah bon?
Ah,
le ciment?
Oui. Ah oui.
J'ai lu la fiche.
Alors. C'est quoi le ciment? Le ciment, c'est de l'eau mélangée avec de la boue. D'accord? Hein, parce que je sais qu'on, j'en ai parlé Shabbat, mais Raphaël, tu m'excuses, j'ai envie de dire, parce que c'est un point important. C'est quoi le ciment? Le ciment, c'est de l'eau mélangée avec de la boue. Avec de la terre. D'accord?
La terre.
Bon. C'est quoi la terre? C'est quoi l'eau? D'accord? Oui, c'est la boue. C'est quoi la terre? C'est quoi l'eau? L'eau, c'est la Torah. La terre, c'est quoi? C'est la matérialité, le matérialisme. Lorsqu'on fait du ciment, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsqu'on a envie de mélanger la Torah avec la matérialité. Ça veut dire de dire, on va expliquer la Torah, on va matérialiser la Torah. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait du ciment. C'est très grave, le ciment. La boue, c'est très grave. C'est encore plus grave que la terre sèche. À la limite, c'est mieux de marcher dans une terre où il y a que de la terre. Parce qu'une personne qui marche, une personne qui est uniquement matérialiste, viendra un jour où il se dira, bon, j'ai exagéré. Le problème qu'on a avec la boue, c'est quoi? C'est que cette personne-là est persuadée qu'il est dans le bon, parce qu'il s'explique à chaque fois ce qu'il est en train de faire. Il a mélangé l'eau, la Torah, avec la matérialité. Alors, qu'est-ce qu'on dit de cette personne-là? Là-bas, il explique le rabbi, il dit, qu'est-ce qu'on voit dans la boue? On voit qu'une personne qui, dans la boue, il peut s'enfoncer. Et s'il n'a pas de l'aide extérieure, il va s'enfoncer, et personne n'en sortira. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, qui se dit, moi je m'explique tout et pour moi c'est important, etc. Cette personne-là peut se retrouver à faire des choses qui sont contre la logique, qui sont contre la Torah, et encore s'expliquer qu'il est en train de faire une mitzvah, qu'il est en train de faire quelque chose de bien.
Oui, c'est vrai.
D'où ça vient ça? Ça vient de Yavan, la culture grecque. La culture qui te dit, fais ce qui te plaît. Si je fais ce qui me plaît, ben après mon cerveau il peut trouver ce qu'il veut, mon cerveau. Mon cerveau il peut me dire, tue quelqu'un et c'est ce qu'il faut faire. Mon cerveau, il peut aller très très loin.
Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui.
Mais bien sûr.
Ils sont en train de montrer que c'est une norme, les mariages gays, les machins. Les
exactement.
Trucs, c'est ça.
D'accord.
Finalement, où est le mal?
Il y a quelque chose qui m'a choqué. Il y a quelqu'un qui m'a raconté, pas de la communauté. Quelqu'un qui m'a raconté il y a deux semaines l'histoire suivante. Bon, il y a, Dieu préserve, sa femme, elle a trompé. D'accord. Oui, bon, il savait pas, etc.
Juste.
Ouais, bon, pas religieux, etc. Pas de la communauté. Et donc lui, il a découvert qui était la personne, d'accord? Non, il a découvert donc qui était cette personne. Bon. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a tabassé.
Normal.
D'accord?
Normal.
Bon.
Il faut répudier tout le monde. Ça
d'accord.
Sert à rien.
Bon, écoutez bien ce qui s'est passé.
Ça change rien.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, c'est
ce qui s'est passé. Oui, bon, en tout cas, il a tabassé l'autre, d'accord?
Ah, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre, pas elle.
Non, l'autre.
Et elle non?
Bon, elle, je sais pas, non.
Dommage.
Tant qu'à faire. Bon, il a tabassé l'autre. Il a fini en garde à vue.
Il est embêté.
Et il est resté en garde à vue pendant 48 heures pour ça. L'autre, on lui a rien dit. Mmh. J'ai réfléchi, je me suis dit, mais dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit? T'as un homme qui trompe une femme mariée, lui, on lui fait rien. Et non seulement qu'on lui fait rien. D'accord? Quand l'autre est à bout de nerfs, ça peut se comprendre.
Oui.
D'accord? Ça peut se comprendre. Qu'est-ce qu'on fait? On le met en garde à vue. Vous imaginez dans quel monde on vit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, on dit que, voilà, on va dire juridiquement, la femme a le droit d'aller avec cet homme, donc t'as rien à lui dire. Par contre, le frapper, il avait pas le droit. Ah, ça, il avait pas le droit.
Ça, c'est clair.
Vous imaginez la gravité? Ça, encore une fois, au nom de l'éthique, au nom de la logique. Oui, les droits de l'homme.
Au nom de la morale.
C'est comme un curieux,
oui, c'est très très grave.
Tu tabasses, et ben c'est toi qui te retrouves en garde à vue.
Mais c'est très très grave.
Oui, il se retrouve à porter plainte.
Est-ce que vous voyez où ça nous amène? C'est que maintenant, dans la tête des gens, d'accord? Un mari qui trompe sa femme, dans la tête des goyim en tout cas, c'est pas grave. Par contre, si le mari s'est défendu, il a frappé, ah, c'est très grave, garde à vue. Certainement qu'il y aura une suite. C'est fou, ça m'a rendu fou quand j'ai entendu ça. C'est exactement ça, Yavan. C'est ça ce qu'il faudrait expliquer, c'est le Morazaken. Que quand on est en train de dire, quand on est en train de dire que le plus important c'est de comprendre ce qu'on fait, dire oui, moi je comprends, je gère, etc. Si tu crois que ça c'est le plus important, ce qui va se passer c'est que l'ego d'une personne est capable de l'amener très très loin. Et une personne comme ça ne s'en sortira jamais. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il fera, il se justifiera. À la limite, c'est mieux d'être un rachat qui dit « bon, je fais, c'est pas grave, je m'éclate », parce que cette personne-là, un jour, il dira « j'ai exagéré, ça y est ». Mais celui qui, à chaque fois, va s'expliquer de manière idéologique que « oui, j'ai fait ci parce que ça, et parce que je pense que le Shabbat, c'est plus pour aujourd'hui, etc. Mais... » cette personne-là ne reviendra jamais.
Mais le rachat, il se donne toujours une bonne raison.
Non, il dit « bon, j'ai craqué, c'était trop dur
ouais, ». Bon, il donne une bonne raison.
D'accord. Ça, sauf que ça, à un certain moment, il va se remettre en question. Mais lorsqu'une personne est en train d'expliquer à chaque fois ce qu'il fait, il dit non, moi par idéologie, c'est la bonne chose à faire, etc. Les gens comme ça, c'est très 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 dur, c'est même presque impossible à les ramener. Parce que pour lui, c'est par idéologie qu'il le fait. Donc pour lui, lorsque tu es en train de lui montrer ton idéologie, il te dit c'est mon idéologie contre la sienne. Ah, donc je préfère la mienne.
Reste épicurien.
Ah bah oui, c'est ça Épicure. C'est ça la grande nouveauté de l'épicurien.
Là, c'est un piège que tu fais parce que... Quand tu expliques ça à des gens, par exemple, ils vont te dire non, nous ce qu'on aime chez Lubavitch, c'est que par exemple, on nous aime tel qu'on est, et puis on nous critique pas, on cherche pas à nous faire changer, etc. etc. Et quand tu arrives avec des gens et tu essaies de leur donner des idées, etc., de dire la Torah elle pense aussi, la Torah elle pense cela, il faut faire ci pour faire ça, tu te fais dégager.
Alors, une des grandes, encore une fois,
tu vois ce que je veux dire,
une des grandes notions de la Hassidout, c'est que c'est pas à moi de casser l'autre, c'est à l'autre, s'il décide, de s'interroger.
Qu'est-ce que tu fais alors? Ouais. Tu fais rien, tu
d'accord, parce que toi tu dis le Lubavitch le plus ouvert, etc. Ouais. Je peux te garantir, d'ailleurs tu le vois bien dans le Tania, que dans la Chassidout, on nous encourage vraiment énormément au questionnement, et qu'on n'arrête pas de le faire. C'est que sur les autres, tu ne le fais pas, d'accord, mais sur soi tu le fais, et ça encore une fois c'est un autre piège. Pourquoi? Parce que le piège des gens c'est quoi? C'est qu'au lieu de s'analyser eux-mêmes, ils vont se mettre à analyser les gens autour d'eux, ils vont dire oui, t'as vu, lui fait pas Shabbat, lui fait pas ci, lui fait pas ci, lui fait pas ça. Et moi je fais quoi? D'accord. Mais moi, est-ce que je me pose des questions sur mon comportement? Est-ce que je suis irreprochable?
Non, mais quand tu vas...
Attends, écoute-moi bien.
Je te dis, mais ça trouve moi aussi, je l'ai fait. Mais
on trouvera toujours pire que soi. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir.
Mais qu'est-ce qu'il faut rien faire, alors?
Dans l'Admorazaken, il dit comme ça. L'Admorazaken est dans un autre endroit, il dit, dans le matériel, il faut toujours regarder celui qui est en dessous de soi. Dans le spirituel, il faut toujours regarder celui qui est au-dessus de soi. Ça veut dire que quand on fait le contraire, dans le matériel, on regarde celui qui gagne plus d'argent que soi. Et dans le spirituel, on regarde celui qui est moins pratiquant et qu'on se met à taper dessus. On n'a rien compris, on a fait le contraire de ce qu'il faut faire.
Tu fais rien alors.
D'accord? Ben oui.
Tu fais rien alors.
On perd son temps. C'est pas comme ça qu'il faut travailler. Dis l'Admorazaken. Non.
Non.
Moi.
C'est marqué Shema Israël. Moi j'ai entendu dire que Shema Israël, ça voulait dire.
Mais bien sûr, j'ai pas dit je fais rien. Je vais essayer de lui expliquer l'importance du Shabbat, mais par l'amour. En lui expliquant l'enjeu de ce qu'il fait. D'accord?
Il t'énerve, il t'a des sushis pas cachés toute la journée à côté de toi.
C'est pas normal que t'énerves.
Tu veux pas en bouffer.
C'est pas normal que t'énerves. Alors si t'énerves, c'est que toi tu as un problème.
Ouais.
Ton problème. D'accord, ton problème. Pas son problème.
C'est de l'ego.
C'est de l'ego ça, exactement, il a raison, c'est de l'ego. Dans le matériel, il faut toujours...
Je suis entouré des tadikim qui me disent tous, c'est l'ego, parce qu'ils ont plus d'ego. Ils sont extraordinaires les gens ici.
Moi, je vois, des fois, je... Des fois, je marche dans la rue, d'accord? Des fois, regarde, je te donne un exemple. Des fois, je vois des gens porter la kippa Shabbat ou rentrer au McDonald's, etc. Ça m'énerve pas. Ça me fait de la peine. C'est pas la même chose.
J'ai trouvé le positif.
D'accord. Mais pas du tout. Ça fait de la peine. Pas du tout. Ça fait de la peine. Peut-être, bon... Le rabbi précédent disait toujours qu'un chassid doit être intelligent. Faut pas être non plus naïf, dire oui, il est rentré pour acheter un coca. Bien sûr qu'il faut bien juger, mais...
Le café, peut-être.
Je regarde mal, ça mal.
Oh, ça m'est arrivé d'aller prendre un café dans le truc. Oui, il n'y a rien autour. C'est pas interdit. Pourquoi c'est interdit? C'est pas interdit.
Ah, t'as pas écouté le cours de la semaine dernière ou la semaine d'avant?
Ah bon, mais des fois, t'es dans le jeu magistrat, il n'y a rien. Tu veux un café?
Rien.
J'ai pas dit que c'est interdit.
Non,
j'ai pas dit que c'est interdit.
On a dit de casser ton SRA.
Alors,
c'est là que le café, t'en as pas besoin du café. Tu dois casser ton
SRA. Des fois, il n'y a rien.
C'est là, je pense que c'est une notion, c'est un point important à se rappeler.
Alors,
si j'apprends que c'est interdit, je vais plus y aller.
Je pense que c'est un point important. C'est un point important à se rappeler. C'est un point très important à se rappeler. Nous dit l'Admorazaken. D'où démarre le Yetzer Hara? D'où démarre le Yetzarara? Le Yetzarara, il démarre, messieurs, en me disant, fais ce qu'il te plaît. Donc comprends ce que tu fais, la science, la logique, la beauté, etc. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que quand le Yetzarara te dit ça, après finalement, Yavan, la Grèce, qu'est-ce qui se passe? Après, le Yetzarara, il est capable de justifier ce que tu veux, t'inquiète pas, ça, on est là pour ça, le cerveau il est là pour ça, il peut te justifier ce que tu veux. C'est ça qu'il dit là de Morazakan, il dit attention, c'est pas parce que je veux quelque chose que je dois l'avoir. Et quand quelqu'un m'a blessé, qui je suis pour être blessé?
Mais ça c'est le problème.
Mais oui.
Mais le vrai problème, c'est celui-là.
Qui je suis pour être blessé?
Le vrai problème, c'est celui-là.
C'est ça le vrai problème.
Qui je suis pour être blessé?
Quelqu'un m'a dit ça? Pas du tout.
Le vrai problème, c'est ça.
Est-ce que vous voyez le paradoxe de ce que le Morazaké nous a dit?
Qui on est pour être blessé finalement? Mais n'empêche que notre nature prend le dessus.
Bien sûr.
Si t'as pas un peu d'orgueil pour t'aider à avancer, t'avances plus, tu vas t'allonger toute la journée.
Alors c'est pour ça qu'on a la technique ici des deux étapes du Morazakan. Messieurs,
si t'as pas le moral,
je dois m'arrêter là dans deux minutes. Voilà. C'est pour ça qu'on a ici la technique des deux étapes de Kadil Ad Morazakan.
Mais c'est bien fait. Hein.
Premièrement, Kadil Ad Morazakan, il a dit, on doit au contraire comprendre l'enjeu de ce qu'on fait. D'accord, je sais aujourd'hui on n'a pas lu beaucoup dans les mots, mais je pense que c'est très important de comprendre ça. Comprendre l'enjeu de ce qu'on fait. Ça veut dire quoi comprendre l'enjeu de ce qu'on fait? Ça veut dire au contraire se donner de l'importance. De dire que je fais pencher la balance. La balance du monde dépend de moi. C'est moi qui va décider est-ce que ça ira aux forces du mal ou aux forces du bien. Qui va marquer le but? C'est moi qui va décider. Donc, je dois avoir une très très forte estime de moi. Oui, ça c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, c'est qu'en parallèle à ça, d'accord, il faut équilibrer en cassant son Yetzarara. Comment on casse son Yetzarara? Les gens ils pensent que casser son Yetzarara, c'est que lorsqu'il te propose une Avera, tu lui dis non. Non, il ne faut pas attendre qu'il te propose une Avera. Avant même qu'il te propose une Avera. Même quand tu te proposes quelque chose de permis, constamment je dois me réfléchir. Je dois dire, je le veux, d'accord, mais est-ce que j'en ai besoin?
Café chez McDo.
Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'en ai besoin?
C'est un besoin.
D'accord. Encore une fois, c'est ce qu'explique Morazakan. Tu as raison. C'est pas une Avera. Mais c'est pas une Avera, mais c'est quelque chose qui peut m'amener à une Avera. Parce que c'est ça la technique du Yetzarara. Voilà. La technique du Yetzarara, c'est quoi? C'est de développer l'envie. De dire, tu veux, t'es un kiffeur, apprends à kiffer. Une fois qu'il m'apprend à kiffer, après il me dira, tu sais, j'ai un meilleur kiff à te proposer maintenant.
Le
d'accord?
Les frites, le kiff. Le manger de beignets. C'est quand c'est bien, ça peut...
Ben non.
Et pourquoi pas?
C'est pas bon.
Et ça met de bonne humeur.
Quoi?
Et ça met de bonne humeur. Bon,
c'est une bonne humeur, pas de problème, fais ce que tu veux. Mais le problème... Mais je mange pas le beignet. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Justement, aujourd'hui on n'aura pas le temps, mais on développera après des techniques. Ouais. Une technique par exemple, c'est de dire, je veux le beignet, d'accord? T'as raison, ça met de bonne humeur, mais je vais attendre 10 minutes avant de le manger.
Voire une heure.
Voire demain, j'en mangerai deux.
D'accord? J'ai un petit peu, qu'est-ce que ça me coûtait? Je fais un tour, je fais autre chose, 10 minutes.
Pourquoi on s'interdit de manger des beignets?
D'accord?
Non, c'est pas un coup pour les tunisiens.
Eh ben oui.
Ça, c'est l'entraînement, ça,
chers amis, écoutez bien. Ça, c'est quelque chose que quand
c'est
on casse son Yetzarara.
Pourquoi c'est Yetzarara? Manger des beignets?
Mais oui! Quand on sait, parce que c'est quoi la clé du Yetzarara? Le Yetzarara, il te dit, tu veux, tu l'auras. C'est mes envies, fais-toi un kiff, vas-y, fais-toi un kiff.
Excuse-moi, c'est comme je vois le matin, Baron. Même dit, il a la force, il attend la fin du cours pour prendre le croissant pour le chocolat. Moi, si j'ai pas pris d'abord, je peux même pas écouter le cours. Tu vois le chemin qui reste à faire.
Il a pas d'appétit.
Tu vois le chemin qui reste à faire.
Je suis occupé à parler. Est-ce que vous voyez ce qu'il veut dire?
Ouais, ça t'empêche pas de manger avant.
Non, mais moi je préfère, parce que si je mange pas avant, déjà je suis pas sûr qu'il en reste.
Alors.
C'est
notre je lis encore 2-3 lignes et on s'arrête. Ve'er nishbar ala benitke, comment le cœur peut être brisé et oppressé?
Oh, c'est des petits, t'entendais?
Ouais, je fais pas exprès, mais chaque fois c'est un rapport avec les événements de la semaine. Iné me'at mis'er ou aliédé sigoufim betani bedorotenu elé, dit l'admorazaken. Comment on peut casser le cœur? Alors, à notre époque, dit l'admorazaken, pour son époque, il parlait, il dit, c'est avec un petit peu de jeûne. Que le jeûne, ça casse la personne. Il dit, qu'est-ce que tu veux manger? C'est pas grave, tu veux manger. Ben, tu mangeras pas. Alors, comme j'ai expliqué, aujourd'hui, on n'a plus la force de jeûner comme à l'époque du roi David. L'Agmar Abrachot, qu'est-ce qu'elle dit? L'Agmar Abrachot a dit sur le roi David, a dit que le roi David, il a tué, d'accord?
Ouais.
Il a tué son Yetzarara par le jeûne. Mais je veux dire qu'il arrêtait pas de jeûner. Nous, on n'a plus cette force, dit l'Agmar Abrachot. Nous, on jeûne de temps en temps. Et c'est comme ça qu'on casse son Yetzarara. C'est quoi l'esprit du jeûne? C'est pas parce que je veux manger que je vais manger. Alors, le Rabbi, il explique maintenant, il dit qu'aujourd'hui, on ne jeûne plus. Parce qu'aujourd'hui, jeûner, ça affaiblit, c'est pas le but. D'accord? À l'époque, jeûner, c'est une manière de se retenir. Non. Aujourd'hui, jeûner, ça affaiblit, donc c'est pas le but. Alors, comment aujourd'hui, on casse son Yetzarara? Aujourd'hui, on casse son Yetzarara, comme j'expliquais ici, aujourd'hui, on casse son Yetzarara en ne pas accepter une tava, un plaisir. Je te retiens. J'ai pas dit qu'il faut se retenir surtout. J'ai pas dit qu'il faut tout casser. Mais je me limite. Je dis, c'est pas parce que je veux que je vais l'avoir.
Parce que finalement, pourquoi
la nourriture par exemple,
avec le plaisir, elle va alimenter
par exemple.
Le côté animal, et le côté animal va me booster.
Alors, Admor Hazaken, le rabbi, pardon, dans les lettres, dans les grottes Kodesh. Écoute bien, dans les grottes Kodesh, le rabbi, il dit là-bas, il dit que ça peut aller très très loin, par exemple.
Il va nous manger.
Il y a une personne que j'ai pas envie d'aimer. C'est pas ma cam, comme ils disent.
C'est impossible, ça, dans les faits. Dans les mots, peut-être.
D'accord. Pas ma case, pas mon truc.
Je vais te présenter.
Écoute, alors tu sais quoi, je me dis, c'est quoi?
D'être vendeur, toi.
Je fais pas d'Avera, je fais pas de la Chanara, je parle pas contre lui, mais je lui parle pas. Je reste où tu es, j'en suis où je suis. Salut, au revoir, bonjour, au revoir. D'accord? Je vais faire un effort. Je vais lui parler. Non, lui, c'est même pas que je me travaille pour le faire. D'accord? Mais pour moi, c'est horrible, je suis en train de me tuer quand je le fais.
C'est impossible.
Ça s'appelle casser son Yetzarara. Parce que pourquoi je voulais pas lui parler? Parce que j'ai pas envie. Ça, le rabbi explique, il dit que ça peut avoir encore plus d'impact qu'un jeûne.
Oui, mais c'est pas émettre.
Finalement,
c'est
à l'époque des Gemara Zaken,
jeûner,
bon, c'est pas très compliqué, parce que tu t'occupes, tu comprends? Je mange pas, mais je vais m'occuper. Est-ce qu'un jeûne, c'est tellement compliqué?
C'est pas émettre et yachar, ça.
Pour nous, quand on a un appétit normal, c'est...
Est-ce que c'est dur? Ça va, c'est pas le bout du monde.
C'est très dur.
D'accord?
Bon. Ouais, mais après, tu peux t'habituer.
C'est encore plus dur, d'accord? C'est encore plus dur. Quand c'est un jeûne spirituel.
Tu casses pas ton ego quand tu jeûnes.
Quand tu casses ton ego, tu dis non, je vais aller lui parler. D'accord? De la même manière, on avait expliqué dans le chapitre 29, on a expliqué quand par exemple une personne marche dans la rue. D'accord? Lorsqu'une personne, chapitre 29 de l'Écoute à Marie, mais je finis avec ça parce que moi je dois partir.
C'est Rabbi.
Lorsqu'une personne il marche dans la rue,
c'est intéressant.
Et qui se retient,
c'est intéressant, d'accord, parce que c'est vraiment le
il se retient de voir quelque chose.
C'est le quotidien.
D'accord, il marche dans la rue, il y a quelque chose qui, il voit quelque chose. D'accord, il se retient de le regarder.
Bon, on l'a compris, d'accord, on l'a compris.
Maintenant, personne n'est au courant de ce qu'il a vu, de ce qu'il a pas vu. Lui, il se retient. D'accord. Chaque seconde qu'il se retient, il est en train de casser son état.
C'est une technique. Hein.
Et je vais vous dire, même si au bout il a craqué, d'accord, chaque seconde qu'il s'est retenu, il a fait quelque chose. Il a cassé son état. C'est pas parce que tu voulais que tu l'as eu. Ça, c'est comme ça qu'on casse son Yetzer Hara.
Il est malin.
Et encore une fois, comme ce que j'ai dit à Yves tout à l'heure, j'ai dit, la force, c'est pas d'attendre que le Yetzer Hara s'attaque dans une Avera, tu dis, je t'écoute pas. Non. C'est de ne pas l'écouter, même lorsque c'est quelque chose de neutre. Un beignet. Je l'écoute pas. D'accord. Je le prends en beignet après.
Ça va faire.
D'accord.
Où on aura cette motivation de pouvoir manger le beignet?
Avant la fin.
Mais qui dit qu'il faut une motivation de manger le beignet?
Voilà. On n'a plus de motivation pour rien. Là.
Mais j'ai pas dit de pas. J'ai pas dit de pas manger. D'accord.
Si, parce que le temps que tu vas gagner à pas manger le beignet, tu vas étudier un peu.
Regarde, je donne un exemple.
Mais pourquoi on prend un exemple de quelque chose qui est permis là?
Parce que même, c'est ce que j'ai expliqué ici, c'est que même quelque chose qui est permis. Même ce qui est permis, c'est une tava. C'est quoi, c'est une tava? Une tava, c'est un désir.
Interdit, moi, j'ai
pas dit que c'est interdit.
C'est du super.
Le Ramban, il dit, sur Kadesh Atmecha ve Mutarlach, la Torah nous demande de se sanctifier. Le Ramban, il explique, c'est de quoi se sanctifier? Sanctifier, ça veut dire que, on doit se sanctifier même dans ce qui nous est permis. C'est ce que je veux, et c'est pas parce que je veux l'avoir. Je vais un beignet maintenant. Je regarde le beignet, je dis, j'en ai envie. J'en ai besoin, ou j'en ai envie?
J'en ai envie, bon alors?
Disons que j'en ai envie. Bon, tu sais quoi? Si ce serait un tzaddik, le tzaddik leur dit, j'en ai pas besoin, donc j'en prends pas. Manger du pain.
C'est ce que j'ai fait.
D'accord? Très bien. Ça, c'est le tzaddik. Nous ne sommes pas des tzaddikim.
Une cigarette à...
D'accord? Nous ne sommes pas des tzaddikim. Donc, comme on n'est pas des tzaddikim, on va dire, bon, ça va, je suis pas un tzaddik, je vais le manger mon beignet. Parce que sinon, comme a dit David, sinon, mon Yetzarara, si je le tue comme ça, il finira par m'avoir dans un gros truc que je veux pas comprendre où ça m'est tombé sur la tête.
C'est un beignet qui m'a mangé là.
Mais bon, j'ai dit non à tout ça, je peux dire oui.
D'accord? Yetzarara, il va m'amener un gros truc, je veux pas comprendre d'où ça me sort. Donc, c'est pas ça le vide. D'accord? Donc c'est pas ça le but.
On a pas le même métier, Yago.
Regarde, son mari, il est pas trop costaud quand même.
C'est pas ça le but. D'accord. Le but, dit la
demande. On n'a pas exactement le même, on va dire.
C'est pas ça le but, dit la demande à Zaken. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de dire, tu veux ton beignet? C'est permis, tu l'auras ton beignet. Mais c'est pas parce que tu l'as envie que tu vas l'avoir. Donc tu vas attendre. C'est pour casser un peu ton ça. Tu dis, tu avais envie, tu vas attendre. Pour casser ton envie.
Par exemple, depuis tout à l'heure, je casse.
C'est pas parce que j'ai envie que je veux l'avoir. Ça, c'est quelque chose qui habitue. Ça, c'est quelque chose qui habitue une personne. Et je pense que, à mon avis, c'est une technique d'éducation aussi, si on, quand on réfléchit bien. D'habituer un enfant que c'est pas parce que tu veux que tu l'auras.
Ça se mérite.
Ça se mérite.
Ouais, mais regarde, par exemple, Shabbat, on fume pas. Après Shabbat, on fume le paquet qu'on n'a pas fumé pendant Shabbat.
Pas vrai, c'est pas vrai.
Non. Non. Non.
C'est un exemple exagéré.
C'est pas grave. C'est pas grave.
Ça n'empêche que.
Ça change pas.
Les gros fumeurs, c'est ce qui.
Parce que toi, David, ce que tu vois, hein, toi, ce que tu vois dans la cigarette, tu vois la nicotine. Moi, je vois pas la nicotine.
Tu vois le plaisir.
Moi, je vois le plaisir que tu as eu. Et le fait qu'une personne a cassé son plaisir pendant tout Shabbat et que chaque fois il voulait prendre sa cigarette, je la prends pas. Il casse. Chaque fois qu'il avait envie et qu'il a cassé, et c'est un plaisir énorme dans le ciel.
Mais ok, mais là, par exemple, pour un beignet. On a cassé, j'ai cassé l'envie de manger.
Non, oui. Non,
mais c'est à chaque fois je casse. Mais au final, ça n'a plus du tout envie de manger le beignet.
Mais bien sûr, tu as envie. T'inquiète pas, t'as les Sahara, ils sont tout près de toi. On t'a pas demandé de casser l'envie, on t'a demandé de repousser l'envie. Donc repousser l'envie, ça veut dire quoi,
c'est toi qui domine,
ça veut dire montrer que c'est moi qui domine l'envie, c'est pas l'envie qui me domine.
Voilà, c'est une façon.
C'est pas parce que je veux, je dois le faire.
C'est moi qui décide du moment où je vais.
Ça, c'est extraordinaire. Et ça, il faut qu'on fasse au moins un ou deux cours encore cette technique, parce que c'est une technique énorme.
Je pense qu'effectivement après ça.
La première technique, comme on a expliqué, c'était comprendre l'enjeu, que le fait de comprendre l'enjeu de ce qu'on fait, on peut donner envie à un enfant de dire. Pourquoi Dieu n'apparaît pas à moi? Ça veut dire l'enjeu énorme. Mais après vient la deuxième technique, il dit attention. Il dit il faut également apprendre à son yetzer hara et à soi-même. Que c'est pas parce que je veux quelque chose que je dois l'avoir.
Non mais quand même, un exemple quand même marquant, c'est l'exemple non, pas du billet. C'est la personne avec qui on ne veut pas parler, et qui on va parler finalement pour casser son.
Bien sûr.
Mais c'est pas émettre. Puisque quelque part on va pas être vrai devant.
Par exemple, tu donnes un exemple. Imagine-toi, tu t'accroches avec ta femme. D'accord?
Ma femme, c'est pas pareil.
Bon, deux secondes, attends, écoute l'exemple.
Quelqu'un que tu.
Tu t'accroches avec ta femme. Et il y a un moment dans lequel en vérité t'es plus accroché, c'est fini. Mais la question est qui va faire le premier pas?
Oui, mais non, mais.
Attends, écoute. Qui va faire le premier pas? Là, c'est purement une question d'ego.
Ah, on sait comment ça se passe.
Parce que avant, on peut dire que. Attends. Là, c'est clairement une question d'ego. C'est de l'ego.
Mais c'est pas pareil, là. Je vois pas le rapport. Mmh. Avec une personne qui si on va lui parler, qu'on lui parle ou pas, finalement, ça nous dérange pas. Cette personne-là. C'est bien ça.
Ta femme, tu veux dire?
Non, je pas dit ça. J'ai dit que cette personne-là, pour nous, c'est très dur. Moi, j'ai pas envie de lui parler. Il me prend la tête.
Ouais, donc on est pas obligé.
Alachiquement parlant, je suis pas obligé.
Il vient à la synagogue, ni dit bonjour, ni dit au revoir, il vient, il arrive, il se casse tout de suite.
Tu connais même pas son nom, dis attends.
Je vais pas dire le nom, mais franchement, c'est énorme.
Bon, t'as pas besoin de parler de nom comme ça. On peut se retrouver des. Il y a des portes, peu importe. D'accord.
Après, tu vas faire des portes.
Non, on parle pas d'une personne qu'on connaît pas, on parle d'une personne qu'on connaît là.
Chaque personne.
En plus, avec des
prénoms là.
C'est vrai, c'est comment tu es.
C'est révélateur, hein. Sauf sinon. D'accord.
Donc,
Bezrat Hachem, on développera.
C'est très horrible.
Mais Ezrat Hachem, on développera plus longuement la semaine prochaine ce point.
Il n'y a pas besoin de se casser.
On expliquera plus longuement ce point, cette deuxième technique qui est énorme. Comment on doit s'habituer au fait que c'est pas parce que je veux que je dois je dois l'avoir. L'Admor Hazaka va donner des techniques concrètes. Quand, par exemple, on va parler du fait de comment on doit se retenir, à quel moment on doit réfléchir, comment se retenir d'avoir une pensée, comment se retenir, comme il a dit, comment se retenir de faire une avéra. Des techniques très concrètes. D'accord? Et ça, comme on va voir, c'est une technique qui peut marcher seulement si on est déjà passé par la première technique. Comprendre l'enjeu de ce qu'on fait. C'est là que quand j'ai compris l'enjeu de ce que je fais, là on peut venir par derrière et me dire, écoute, c'est pas parce que tu veux que tu l'auras. Comprenez? Mais si on vient directement dans la deuxième technique, ça marchera pas. Et Ezrat Hachem, on reviendra sur ça la semaine prochaine plus longuement. D'accord? Voilà, donc bon Hanouka et bonne bataille avec la culture grecque. C'est ça, la culture grecque, c'est ça, c'est mamacha. Tu dis, fais ce qui te passe par la tête.
Il nous a presque anéanti.
L'autre jour, je croyais qu'il y avait un lecteur comptable, un juif.
Ouais.
On parlait comme ça, puis il me parlait, il me dit, ouais, Torah, tout ça. Je dis, bon, il y a quand même le bien. Il est là chez moi, je reste tout de suite. Ce qui est le bien, c'est ce qui fait du bien. Voilà.
Celui-là, ça va être très difficile à ramener parce qu'il a une idéologie. Tu comprends? Quelqu'un qui dit écoute, c'est trop dur pour moi.
Ils ont tous des idéologies.
Non. Alors moi je les vois, non. T'as des gens, par exemple, qui travaillent Shabbat, mais qui disent, bon, écoute, c'est trop dur.
Ça, j'explique, parfois ça, c'est vraiment provocateur.
Oui, mais c'est une idéologie de dire
non,
c'est
non,
trop
non,
dur.
Non, il a raison. Des gens, surtout les intellectuels. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Surtout les gens intellectuels. Ouais. D'accord? C'est des gens que tu retrouves dans les universités, dans les trucs comme ça. C'est des gens complètement tordus.
C'est pas les plus durs. Hein.
D'accord? Mais qui sont persuadés qu'il y a une idéologie dans ce qu'ils font.
Les profs de philo aussi.
D'accord. Ah, mais complètement tordus, hein. On sait. D'accord? On sait
ah
que.
Oui, bah, allez, ah oui, oui, d'accord. Je n'ai pas assez fréquenté pour ça.
Vous imaginez, par exemple, aujourd'hui, j'entends qu'aux États-Unis, même en France maintenant, en train d'expliquer, oui, une personne qui a une nature homosexuelle, ben, il faut qu'il développe sa nature, ouais, qu'il soit accepté, etc. Mais imaginez où on va avec le cerveau, on dit, oui, au nom de la morale, comme il a dit, de l'éthique, oui, il faut accepter, un torrent, on le met à mort.
Bien sûr.
Mais est-ce que vous voyez où on va?
On voit où on va, c'est ça le problème.
Il y a des mouvements. Bien sûr, on va, mais c'est ça le problème. Et encore une fois, il y a une idéologie derrière. C'est pas que les gens qui disent, bon, c'est trop dur, on s'est lâché. C'est pire que ce d'homme.
C'est pas compliqué, ça, je dirais.
À mon avis, c'est le problème de Yavin, c'est le problème de l'époque.
Parce que
c'est le plus grand problème.
Je suis entendu un rabbin autre jour à la radio qui disait, le judaïsme n'a pas de problème avec les homosexuels, il a un problème avec l'homosexualité.
Oui.
C'est-à-dire qu'on considère que l'homosexualité, c'est quelque chose de pas bien.
C'est une maladie.
C'est une maladie.
C'est une maladie.
Mais c'est ça que vous voulez dire.
C'est pire, ça, pour eux.
Mais qu'un homosexuel, bon, c'est un être humain comme un autre.
C'est une maladie.
Et qu'il faut essayer de le traiter.
Enfin, pour moi, c'est une maladie.
C'est
une maladie.
Non, mais c'est pas évident, parce que la plupart des homosexuels, ils vont t'expliquer. Ils en sont persuadés.
C'est un choix personnel?
Non.
Non.
Non. Que c'est une nature?
C'est une nature, ouais.
C'est une nature.
Donc c'est une maladie?
Non, c'est une nature.
Toi, c'est une nature.
Ils sont comme ça.
La nature, c'est pas les malades.
Il n'y a pas une nature. Nature en travail, c'est la nature.
Non. Toi, quand tu vois une femme, ça te fait quelque chose. Enfin, ça devrait te faire, ou ça te faisait avant de te marier.
Et lui, ça lui fait quelque chose pour un homme.
Et lui, ouais. C'est tout.
Non, c'est vrai, c'est
il
vrai.
Dit, attends,
c'est...
je comprends pas, toi, ça.
Mais c'est une maladie.
Non, mais.
J'ai compris, non.
Eux, ils sont intimement persuadés et que les gens parlent en mots, c'est les gens qui leur disent que c'est une maladie. Moi, je remarque souvent une cause et effet, c'est que souvent, je remarque que les problèmes d'homosexualité, c'est souvent un problème avec les parents.
Non, pas forcément.
Pas souvent, souvent.
Souvent, des familles monoparentales.
Avec soit un père sévère, soit. Soit un père sévère.
C'est la mère surtout.
Soit une mère sévère, etc.
C'est la mère qui tient la baraque. Quoi. C'est la mère qui tient la baraque,
ouais. C'est
ça.
Si. Mais le. Non, c'est en parle de ça. Il dit si pour le garçon.
Il disait qu'un homme
c'est plus la rigueur, une femme c'est plus l'amour. Un homme qui soit rigueur à 110% et 30% amour avec son fils, une femme le contraire. Pourquoi? Parce que si l'homme il est trop gentil avec son fils et que la mère elle est trop sévère, si le modèle agréable pour l'enfant, ben c'est le père, que par c'est un peu normal qu'il va chercher les hommes, tu vois après. Tu vois ce que je veux dire? Si les deux parents font pas leur boulot d'équilibrage.
Moi, de ce que je sais, de ce que j'ai appris, on dit que ce problème il vient en général lorsque.
Mais des enfants battus par leur.
C'est d'où vient ce problème, Yaakov? En général, ce problème il vient chez des hommes qui ont une grande facilité avec les femmes. Et que pour eux, c'est plus un challenge.
Voilà.
C'est vrai.
C'est autre chose.
C'est ça.
Ça, je veux bien croire.
Non, il y en a qui
font ouais, ça.
Ça, c'est une perversion.
Ça arrive aussi.
C'est l'autre qui l'embête.
Non, c'est plus un challenge. Quoi qu'il en soit, je vais conclure le cours, parce que je dois partir. Quoi qu'il en soit, vous voyez que, qu'est-ce qu'on voit ici?
Mais il a pas tort, parce que c'est vrai. Non, parce qu'en général, c'est
qu'il y a une fête chez moi. Il y a une fête chez moi, une fête de famille, surtout chez moi à la maison. Moi, j'ai dit, je vais pas annuler le cours. Ce qu'il y a de particulier, ce qu'on a expliqué ici aujourd'hui, au cours d'aujourd'hui, c'est qu'on a expliqué, regardez comment, au nom de la morale, on justifie quelque chose comme l'homosexualité. On justifie quelque chose comme le fait que oui, la femme, oui, ben alors elle voulait aller avec un autre homme, pourquoi pas, qu'est-ce qu'il y a? Au nom de la morale. C'est-à-dire que quand on suit le cerveau peut nous faire n'importe quoi. Ça, comment on casse ça dans le judaïsme en disant c'est pas parce que tu veux que tu l'auras. C'est ça le concept des mitzvot négatives. On développera ce concept plus longuement la semaine prochaine dans ta chaîne. Je pense qu'avec ça, on comprend une grande partie des mitzvot négatives. Le fait que la Torah nous demande de nous retenir, de pas faire ci, de pas faire ça, des choses qui sont des fois difficiles. Bien sûr.
J'ai quand même l'impression que ce cours-là, ça résume quand même tout le Tania qu'on a étudié de tout le départ.
Ah bon ?